Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Fred.
Salut Bart.
Eh bien écoute, je suis vraiment ravi d'être là. Merci beaucoup pour ton accueil.
Bah, avec plaisir. Merci d'être venu, de t'être déplacé jusqu'ici.
Ouais, c'était une grosse journée. Je t'ai dit, je me suis levé à 5h du matin. Les grèves, j'ai cru que j'allais pas décoller.
Ça va, ça se voit pas. T'as pas les petits yeux, donc on est bon.
Bon, écoute, c'est cool. J'ai bu mon café. On est bien installé. Écoute, je suis vraiment ravi d'être là parce que en plus, en tant que triathlète, forcément, je suivais beaucoup les nageurs et je me suis beaucoup renseigné. Et en plus, je sais que t'étais un très bon copain de Florent et j'ai passé un très bon moment avec Flo et il m'a dit si t'as envie de te marier tu vas voir Fred, tu vas passer un bon moment et je te vois avec le sourire aux lèvres donc je sais qu'on va passer un bon moment aujourd'hui. Avant qu'on rigole et qu'on digresse, qu'on s'amuse un peu, j'ai une première question que j'ai posée 200 fois avec ce micro à tous les athlètes. La question traditionnelle sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Ok, bon écoute, moi quand j'étais gosse, y avait que le foot dans ma vie. Mes premiers souvenirs, je dirais, ils sont tous liés et reliés à l'Olympique de Marseille. On parle de l'Olympique de Marseille dès la fin des années 80, début des années 90. Et donc le premier vrai souvenir marquant et qui est toujours très frais dans ma tête, c'est cette fameuse tête de Basiboli lors de la finale de la Champions League contre Milan. Donc c'était en 93. Merci de me l'avoir rappelé aussi de la date. J'ai plus sûr entre 91 et 93. Et donc quand l'OM devient champion de l'Europe. Et ce moment incroyable, cette fête phénoménale que j'avais fait, on était dans la chambre d'hôtel de mon meilleur ami d'enfance. En fait, ses parents avaient un hôtel à Perpignan, puisque je suis originaire de Perpignan, j'ai grandi à Perpignan. Et en fait, tous les matchs de l'OM, on allait en réquisitionner une chambre de l'hôtel pour se mettre devant le match, dans le lit, avec les copains, et à regarder les exploits de Jean-Pierre Papin, les dribbles de Chris Waddle, les frappes de Franck Sauzet, enfin bon bref, voilà. Cette époque, rien que d'en parler, ça me donne des frissons, parce que c'était vraiment des moments magiques. Et celui-là, le moment, il a été incroyable pour moi, pour nous, à cette époque-là. On était des jeunes joueurs de football, on aspirait tous à devenir des grands de ce sport. Et voilà, c'était très inspirant et un grand moment du sport pour moi.
Ok. Comment ça se fait qu'un gamin qui grandit à Perpignan supporte l'OM?
En fait, parce qu'à Perpignan, mis à part le rugby, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y avait une petite équipe de foot qui, d'ailleurs, une année est montée en Division 2. L'année, en plus, où l'OM a été rétrogradé en Division 2, après le fameux OM Valenciennes, je crois que c'était ça l'histoire. Mais du coup, foot à fond. Pas du tout rugby, moi, dans l'âme. Et à jouer au ballon rond dès mon plus jeune âge, dans la rue, avec les copains de l'école, dans la cour de récréation également. Et voilà, la passion du foot, tout simplement.
Ok, d'accord. Et l'OM, du coup, vient naturellement parce que c'est l'équipe du moment, quoi.
L'OM vient naturellement, exactement. L'OM vient naturellement parce que c'est l'équipe du moment, parce que c'est l'équipe du Sud, et qu'en ayant grandi à Perpignan, on est méditerranéen, Marseille étant la ville pour nous, la capitale de la France. On ne parle pas de Paris déjà à ce moment-là. On est un peu chauvin, nous, les Provençaux, à ce niveau-là. Donc voilà, l'OM découlera. Et comme tu dis, l'OM brille à ce moment-là. L'équipe est emblématique. Le président est d'autant plus emblématique. Mais l'entraîneur aussi, Raymond Gotthal, à cette époque-là, c'était un personnage. Tous les gens de ce club, à l'époque, étaient des personnages. Et donc, c'était fasciné par ce qui se passe sur le terrain, mais également par ce qui se passe en dehors du terrain, les discours, l'avant-match, les préparations, des choses comme ça.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi aussi, ça me faisait vibrer. Mais mon père était un fervent supporter de l'OM, exilé à Paris. Donc c'était dur. Moi, toute mon enfance, c'était dur parce qu'en plus, j'ai commencé à vraiment à regarder le foot, à m'y intéresser aux années Ronaldinho, tu vois. Donc ça commençait à sentir un peu le roussi. Donc et puis là, en ce moment, c'est dur. Mais
moi, je t'avoue que je suis quasiment plus du tout. J'ai complètement décroché. J'arrive. Peine de cœur. C'est vrai que j'ai dû faire mon deuil par rapport à l'OM depuis quelques années. Maintenant, je suis toujours, mais léger. La Coupe du Monde, oui. Maintenant, le championnat, quasiment pas. Je sais pas ce qu'il s'y passe.
Ok. Et si Marseille revient à ce haut niveau, est-ce que tu replongerais un œil ?
Aujourd'hui, alors, il y aurait une partie de moi qui prendrait de la fierté en tant que supporter de l'OM de voir Marseille briller à nouveau sur le haut du tableau. Mais pour autant, je pense pas que je ne redeviendrai fanatique comme je l'ai été, à suivre les joueurs, à connaître le nom de chaque joueur dans toutes les équipes comme je l'ai eu à un moment. Enfin, quand t'es gosse, tu idolâtres, tu te passionnes de ça. C'est les petits livrets Panini avec les autocollants. Suivre tous les matchs et voir tout ce qu'il se dit, tout ce qui s'écrit sur les joueurs. C'est dès que t'as l'occasion, par exemple, un autre souvenir, vite fait, une petite parenthèse, parce que celui-là, il était marquant, avec mon meilleur ami d'enfance aussi, qui était dans le foot tout comme moi. On se blesse à peu près à la même période. On est tous les deux sur les béquilles et ma mère... Donc on est en convalescence, on peut pas jouer, on peut pas s'entraîner, on peut pas s'amuser. Et elle apprend que l'équipe de Marseille est en train de faire sa préparation en début de saison à Font-Romeu. Font-Romeu, lycée climatique, on est à 1h15 de Perpignan en bagnole. Elle nous prend tous les deux dans la bagnole, elle nous monte à Font-Romeu dans l'espoir qu'on puisse les croiser. Évidemment, on est accolé devant l'hôtel des joueurs de l'OM, mais avec des centaines de personnes qui sont attroupées à cet endroit-là. Personne n'a le droit de rentrer, évidemment. Ma mère qui se dégonfle pas, qui va voir le réceptionniste et qui joue la carte de la culpabilité. Oui, j'ai mes deux enfants, ils sont là, ils sont sur les béquilles, ils peuvent pas s'asseoir, vous pourriez pas les faire rentrer. Et le mec, il craque forcément et il nous laisse rentrer. Donc, on se retrouve dans le hall de réception et d'un coup, je pense que c'est la sortie de la sieste pour les joueurs qui vont faire une petite réunion ou un petit goûter, je pense, avant d'aller à l'entraînement de l'après-midi. Et donc, on est là et on les voit passer un par un devant nous. Chacun a un petit sourire, un petit mot à chaque fois. Et d'un coup, on se retrouve au milieu d'eux avec nos pauvres petits... Enfin, moi, j'avais un classeur rouge, je l'ai toujours d'ailleurs, en plastique, avec mon petit marqueur. Et chacun me signe mon classeur. Mon meilleur ami avait un drapeau, tu sais, le drapeau du supporter de l'OM, qu'il fait signer, qu'il a toujours, je sais aussi. Et on a tous les joueurs de l'époque qui nous signent ça et... Voilà, on est comme des oufs, quoi, à ce moment-là. C'est voilà, pour des gosses, de vivre des moments comme ça. Et c'est là que je me suis dit, le sport et le sportif peuvent faire du bien autrement que par le spectacle qu'ils donnent sur le terrain ou dans les stades. c'est ce qu'il peut apporter aussi humainement.
Bah, j'imagine les deux gamins là avec des yeux en cœur en train de recevoir leurs petits autographes, tu vois. Moi j'avais pareil pour le tennis, la sortie des matchs, tu vois, j'étais comme les gamins que tu vois à Roland Garros avec la grosse balle de tennis et leur petit classeur et le feutre et tout, et à crier je veux mon autographe. Donc j'imagine très bien, tu vois, et je pense que on est nombreux, tu vois, à avoir eu ce petit moment. Et sympa maman, franchement, elle a du caractère.
Ouais, maman dédiée, maman qui est prête à tout faire pour son fils, pour ses enfants, quoi.
Ok. Tes parents sont sportifs ?
Non. De mémoire, personne dans la famille n'est sportif. Ma sœur a fait un tout petit peu de danse classique lorsqu'elle était plus jeune, mais c'était plus par rapport à les problèmes de dos qu'elle avait et de scoliose. Elle a dû arrêter aussi, malheureusement, rapidement. Ma mère, pas sportive pour un bras. Mon père, pareil. Mon père m'a juste raconté quelques petites histoires lorsqu'il était à l'armée et qu'il a fait un peu de boxe. Mais je pense que c'était ce qui allait avec l'armée à ce moment-là.
Okay.
Mais non.
Okay. Ouais, donc, tu n'avais pas de figure dans la famille de sportif de haut niveau et...
Non, pas de sportif.
Ouais. Ok. À quel âge tu commences à chausser les crampons et...
Je commence à jouer au foot. Alors, dès que j'ai la taille et la capacité de me tenir debout, tout ce qui est rond, je tape dedans. Et puis, ma maman m'inscrit en club, au club de Perpignan, donc au PFC, à l'âge de 6 ans. À 6 ans, je commence le foot et c'est l'âge auquel je rencontre mon meilleur ami qui rentre dans l'école dans laquelle je suis. Et donc tous les deux, nos parents nous inscrivent au même club. Donc on se retrouve aussi les après-midi, les mercredis après-midi à jouer ensemble. Et ça, le foot, ça dure jusqu'à 11 ans et demi, 12 ans. Avec un changement de club entre-temps, on s'est fait tous les deux virer comme des malpropres du
Qu'est-ce
PFC.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Bon, on n'était pas politiquement correct. On n'était pas dans le cadre des petits joueurs parfaits qui exécutent les conseils techniques et les exercices techniques. Nous, on est là pour taper dans le ballon, pour faire des matchs, pas pour apprendre à jongler ou à dribbler. On veut jouer. Donc, on se fait gentiment pousser dehors. Je pense qu'on ne correspondait pas forcément à l'image que le club voulait avoir. Donc, on se retrouve dans un club de quartier à Perpignan, le club de Porte d'Espagne, le quartier de Porte d'Espagne, beaucoup plus à notre image à ce moment-là, beaucoup plus déluré, beaucoup plus dans le plaisir de jouer, de se retrouver entre copains. Avec ça, il n'y a pas les résultats forcément, on se prend des dérouillés tous les week-ends, mais on s'amuse, on rigole, on est une équipe complètement décousue parce que chacun veut être l'élément moteur, donc chacun veut être celui qui marque ou celui qui arrête le but, enfin bref.
Tous attaquants quoi.
Mais, ouais, tous attaquants ou tous défenseurs, mais tous en même temps, donc du coup ça crée des creux quoi. On vit nos plus belles années à ce moment-là en délire grave.
Ok. À quel moment, du coup, on te dit qu'il faut peut-être un petit peu moins pratiquer le foot ?
En fait, l'arrêt, il est assez brutal parce que voilà, j'ai arrêté, je crois que c'était 11 ans ou 12 ans. Cette année-là, j'ai fait une forte poussée de croissance et j'étais un gamin qui ne mangeait pas énormément. Toute ma famille est assez fine, d'ossature. Et en fait, je fais une forte poussée de croissance. Je ne suis pas au niveau de l'alimentation. Je mange ce que j'ai envie à cette époque-là, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, du coup, j'ai une fragilité osseuse qui s'installe. Et donc, du coup, tous les week-ends, ma mère m'amène aux urgences. Parce qu'après chaque entraînement, pas chaque entraînement, mais après chaque match quasiment, je me blesse. Soit c'est une entorse de la cheville, soit c'est une fracture, soit c'est le coude, soit c'est le poignet, la main, le pied. Enfin, on a passé à peu près un an dans les plâtres, les béquilles et tout ça. Donc, c'est pas drôle pour moi parce qu'à chaque fois que je m'amuse, je me fais mal. Et c'est pas drôle pour ma mère non plus parce que l'inquiétude d'une mère par rapport à son enfant qui s'inquiète par rapport à ça, est-ce que c'est pathologique ? Est-ce que c'est parce qu'il est trop brusque ? Est-ce que... Voilà. Donc, elle m'a amené à Palavas-les-Flots. Où elle avait amené ma sœur quelques années avant pour une grosse scoliose, où ma sœur a dû porter un corset. Et donc, elle m'envoie, elle m'amène là-bas pour faire les examens. Et rien de dramatique n'en ressort, mais une fragilité osseuse. Et les médecins lui recommandent fortement de me faire arrêter toute pratique de sportive à risque. Donc tout sport à contact, tout sport violent entre guillemets, même si on ne peut pas dire que le foot est un sport violent, mais tout sport de contact jusqu'à la fin de ma croissance. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai 12 ans, la fin de la croissance d'un garçon, c'est dans les 17-18 ans, et que j'ai toute l'énergie qui vient avec un gamin de 12 ans, et que ma mère, elle panique à ce moment-là dans le cabinet du médecin. Je me rappelle encore de la salle où il y avait deux médecins en face de nous et elle leur dit non mais c'est pas possible, enfin
il faut qu'il fasse du sport.
Ouais, il faut qu'il fasse, je peux pas le garder à la maison comme ça constamment, il faut qu'il fasse quelque chose. Et donc les médecins lui disent ouais bah des sports il y en a d'autres, il y a pas que le foot dans la vie, il y a de la danse ou il y a la natation. Et là, je les regarde les deux et je les ai détestés instantanément. Hein. Je les ai haïs les deux.
Tu te souviens de leur tête
et ouais, deux bruns avec des blouses blanches. Quoi. Je vois deux, là, dans mes souvenirs, je vois deux silhouettes brunes avec des blouses blanches. Mais je me tourne vers ma mère et je la regarde. Et dans ma tête, je me dis, maman, tu vas vraiment me filer un tutu ou un moulbit. C'est vraiment ce qui va se passer là. Et donc, le retour à Perpignan, il a été horrible parce que je décroche pas un mot dans la bagnole. Et ma mère qui dit putain mais comment je vais lui faire passer la pilule quoi à ce gosse parce que tu lui enlèves
on vient de t'enlever ta passion quoi
ouais on vient de m'enlever ma passion exactement on vient de m'enlever ma passion ça a été vraiment pour moi ça a été brutal parce que au-delà de ce que je te disais tout à l'heure sur les joueurs de l'OM ma passion c'était ça quand on tu sais en début d'année dans les classes on te dit bon voilà présente-toi et qu'est-ce que tu veux faire plus tard joueur de foot professionnel je ne savais rien d'autre que ça. Et je ne voulais répondre rien d'autre que ça, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc d'un coup, cette ligne, elle doit être effacée. Bien heureusement, j'ai une mère exceptionnelle, je pense un peu comme toutes les mères, mais la mienne particulièrement. Elle prend les choses doucement et calmement, et elle se sert de l'amitié qu'elle a avec ma prof de sport à l'époque, j'étais au collège. Elle lui en parle. Et ma prof de sport, Madame Sabaté, Régine Sabaté.
Qu'on embrasse.
Ouais. ouais, parce que c'est aussi grâce à elle que la piscine a commencé. Elle lui dit, écoute, amène Fred avec moi les mercredis après-midi. J'encadre le sport scolaire, l'UNSS. Amène-le avec moi, je vais lui faire un peu nager. Et je te dirai, on verra ce qu'il en est. Et je fais 2-3 séances avec elle. Puis vient rapidement une première compète parce qu'elle veut me faire une compète de suite. Elle me dit ouais non ton fils il y a quelque chose donc on va lui faire une compète. Et les compètes UNSS c'est pas des compètes traditionnelles mais c'était un 25 ou des trucs comme ça. Et je sais pas comment je me débrouille, je tourne les bras vite et je gagne. Et je gagne en fait du coup quand je gagne ça me plaît forcément. Quand tu fais quelque chose et que tu sais que tu le fais bien forcément ça te plaît. Et rapidement ma prof de sport dit à ma mère Fred, il a quelque chose, il faut que tu l'inscrives en club. Il faut que tu le mettes en club parce que déjà, ça lui plaît. Il passe du temps. Il est beaucoup plus attentif que ce que j'ai pu le voir dans les cours de sport. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, en plus, il développe des qualités aquatiques qui sont assez surprenantes. Bon, après, c'est un prof de sport qui exprime ça. Ce n'est pas un maître nageur, ce n'est pas un entraîneur avec son BE, etc. Mais voilà.
Elle a cette intuition, quoi.
Ouais, il a l'intuition, ouais, voilà. Et donc, l'année suivante, ma mère me fait passer les tests pour entrer au club de Canet 66 Natation, qui est le petit village à côté de Perpignan en côte. Les tests se passent bien. Seulement, à l'époque, c'était... c'est fou, parce que c'était quand même il y a plus de 30 ans. Je me rappelle des noms des entraîneurs qui m'avaient fait passer les tests. C'était Nicolas Séché et Laurence Ferrer, qui disent à ma mère, votre fils, on a envie de le prendre, parce qu'il y a quelque chose. Par contre, il y a une grosse mise à niveau à faire. Il n'est pas passé par le cursus traditionnel des écoles de natte qui commence à 6 ans. Donc, toutes les bases techniques, il ne les a pas. Donc, on va le prendre, mais on va le mettre dans un groupe en dessous pour le début. Donc, en fait, j'ai commencé la saison. J'avais 13 ans en club. Et je m'entraînais avec des gamins de 9 ans ou 10 ans. Imagine donc à cet âge-là, la décharge. Tu prends une première décharge parce que déjà, tu ne peux plus faire de foot. Et en plus, tu prends une deuxième décharge parce que le sport qui commence à t'animer un petit peu, tu vas le faire, mais avec des gosses, avec des gamins, en plus, qui te maltraitent. À cet âge-là, il n'y a pas de pitié. moi, j'arrivais grand dadé, complètement désuni dans l'eau. Les autres, ils nageaient déjà parfaitement bien. Ils me mettaient des mines à l'entraînement. J'étais derrière tout le monde. Je n'arrivais pas à suivre, je n'arrivais pas à tenir une séance. Donc, ils se moquaient, etc. Ça te blesse dans ton orgueil, mais en même temps, ça te forge. Après, c'est pas allé très très loin. On ne peut pas parler de harcèlement moral ou de choses comme ça, mais tu prends cher. Tu prends cher dans les dents. Par contre, ça te motive. Moi, ça m'a motivé pour vite monter les échelons et retrouver le groupe avec les nageurs qui ont mon âge, avec lesquels je peux m'épanouir également un peu plus. Et ça s'est fait assez rapidement. Dans le courant de la saison, j'ai pu rejoindre l'autre groupe tout aussi mauvais techniquement parlant. Et ça, c'est quelque chose de toute façon qui m'a accompagné tout au long de ma carrière. Mais
combler... avec toi-même.
Non, mais combler le vide par la motivation, l'envie et le travail.
Ok. Tu te souviens de ce qu'il a ressenti, le petit Fred, quand il a mis ses premiers pieds dans l'eau et qu'il a mis son petit moule-bite, tu vois?
Pas du tout à sa place.
Ouais, t'étais pas...
Je suis arrivé dans un monde où c'était assez lisse, des enfants assez lisses, assez obéissants, disciplinés, déjà très ordonnés, qui arrivent avec leur petit sac, leur équipement de natation, leur maillot de bain, leur bonnet, leurs lunettes qui vont bien, etc. Moi, j'arrivais du foot où, en fait, c'était un short, un t-shirt et des baskets. Donc, en fait, je suis arrivé, ma première séance d'entraînement, j'arrive, je me rappelle encore ma tenue parce que c'était mon époque un peu rebelle, genre Guns N' Roses et compagnie. Donc, j'arrive.
T'étais rock
Ouais, j'ai eu plusieurs phases, j'ai eu toutes les phases, mais cette phase-là, elle était rock. Donc, j'arrive avec un jean déchiré, délavé, mes Doc Martens, mon portefeuille où il n'y avait rien dedans, mais il fallait juste avoir un portefeuille avec la chaîne qui pend, ouais, tu sais, et le t-shirt Guns N' Roses, les cheveux longs. Et j'arrive à la piscine, déjà, ils me regardent tous comme un extraterrestre. Et ils me regardent tous en se disant, mais
grand,
qu'est-ce que
plus,
c'est
j'imagine,
ouais,
dans tes
grand, chaînes-là. Fin, des grosses lunettes de vue parce que j'étais binoculaire. Enfin, je le suis toujours, mais j'étais myope à l'époque. Et donc, j'avais des grosses lunettes rondes. Et ils me voient débarquer. Et en fait, je passe au vestiaire. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, les vestiaires. Est-ce que j'ai un casier, j'ai pas un casier. Donc, je laisse tout à l'arrache dans le vestiaire, comme ça. Et je me mets mon maillot. Et moi, j'arrive et j'ai un maillot. Bah, je vais nager, j'ai un maillot. Mais j'ai pas de bonnet, j'ai pas de lunettes. Donc en fait, ils me regardent, ils se marrent tous quoi. Et je fais l'entraînement sans bonnet, sans lunettes, avec les veuches en mode rideau et pas de lunettes, donc j'y vois rien. Je nage un peu comme ça dans la ligne d'eau. Je nage n'importe comment, je respire tous les temps. Enfin, c'est voilà, c'est folklore. Je pense que tous les gars qui ont vécu ma première semaine, ma première séance, ils s'en rappellent. Mais pour autant, alors forcément, je me sens pas vraiment à l'aise parce que bah, je suis sorti de mon milieu et je suis sorti de mes potes et je découvre de nouvelles personnes et je me sens pas forcément dans le moule et accepté immédiatement. Et pour autant, bah, je suis bien. J'aime ça. J'aime nager. J'aime me retrouver dans l'eau. Et en fait, bah, comme je suis parti quand même de très très loin en tant que nageur, bah, les progrès arrivent rapidement et je sens les progrès venir. Tu sais, tu sens quand tu arrives à mettre en application le conseil technique de ton entraîneur et que de suite ça se met en place et que d'un coup, bah, tu passes un cap, tu montes la marche suivante et tu sens bah, que ça glisse plus facilement. Tu sens que bah, le 50 ou la longueur, elle va plus vite. Bah, c'est hyper, c'est euphorisant. Et tu as envie de continuer, tu as envie. Et donc du coup, mes premières années de natation, je suis en demande de passer plus de temps dans l'eau, de m'entraîner plus souvent. Et donc je passe dans le groupe compétition l'année suivante avec mon entraîneur de cœur qui s'appelle Jacques Pellerin. Et sans lui, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu tout au long de ma carrière parce qu'il a été un grand entraîneur. Et il est un grand entraîneur, mais une grande personne pour moi. Jacques, pour le resituer, c'est celui qui a entraîné Franck Esposito au moment où Franck est médaillé olympique en 92 à Barcelone.
Sur du papillon.
Sur du papillon, exactement. 200 mètres papillon. Okay. Bon, leur histoire s'arrête et Jacques se retrouve entraîneur à Canet. Et Jacques, il se retrouve à m'entraîner à l'âge où j'ai 16 ans, où tu as envie de tout faire vite, de progresser vite, etc. Et tout au long des années où je m'entraîne avec lui, il me dit « Fred, sois patient. On fera les choses les unes après les autres. D'abord, tu dois créer tes bases. L'objectif, ce n'est pas d'être le meilleur de ta catégorie d'âge. L'objectif, c'est d'être le meilleur quand tu seras un adulte, quand tu seras en toute catégorie. » Il me dit « Les mecs que tu vois là, qui ont 5-6 secondes d'avance sur toi au 100 mètres, tu les verras pas dans quelques années aux Jeux Olympiques. » Et il avait tellement raison. C'est des gars qui ont explosé parce que bah, à vouloir trop s'entraîner, à s'entraîner 10 fois par semaine, à faire de la muscu alors que t'es pas en âge, etc. Mais moi, ils me canalisaient là-dessus. Alors que je m'entraînais avec dans un groupe avec des adultes, avec des mecs qui avaient plus de 20 ans et qui faisaient de la muscu, qui nageaient 2 fois par jour. Et moi, je venais 3 fois par semaine. Et j'avais pas le droit de faire de muscu alors que je voulais des gros bras, je voulais des gros biceps et je voulais des abdos, etc. Ben non, ben il m'a canalisé là-dessus. Et franchement, mais je le remercie et je l'ai remercié tous les jours tout au long de ma carrière parce que ben sans ça, je sais que je me serais brûlé les ailes. J'aurais voulu aller trop vite, trop rapidement et je me serais cramé. Et en fait, ben je l'ai écouté. Non, il m'a obligé à faire ça. Et je l'en remercie parce que ben, c'est ce qui m'a permis de durer aussi longtemps et de nager jusqu'à 35, 36 ans, toujours en équipe de France et avec la même envie et la même énergie.
Ok. Ouais, donc il t'a transmis beaucoup de passion aussi dans mes souvenirs. C'est quelqu'un de très passionné, non ?
Ouais, bah ouais, beaucoup de passion et puis bah surtout beaucoup d'histoires qu'il me racontait, bah des moments qu'il avait vécu avec Franck sur des championnats de France quand il bat un record du monde ou sur des championnats du monde quand il arrive et que la veille de sa course parce qu'à l'entraînement ça se passe pas comme il veut, bah il se dit je me casse, je rentre, ça sert à rien d'être là. si je suis pas le meilleur de moi-même, je veux pas me montrer, je veux pas me mettre en compétition avec les autres. Enfin voilà, des choses comme ça qui me fasciné du haut de mes 15-16 ans. Et il m'a donné aussi le goût de la compétition. Il m'a donné le goût de ce qui pouvait venir, c'est-à-dire des champions, des Jeux Olympiques, des championnats du monde. À cela se rajoute aussi un autre facteur qui a été vraiment déterminant pour moi, c'est que le club dans lequel je nageais, Canet, organisait et organise toujours, ça fait un paquet d'années, un meeting de natation qui s'appelle le Mare Nostrum. C'est au mois de mai, au mois de juin en général, qui accueille sur 3 jours les plus grands noms mondiaux de la natation. Ils font venir un plateau exceptionnel. Et moi, au bout de ma deuxième ou troisième année de natation, je me suis retrouvé à être un des petits jeunes qui porte les casiers. Comme au tennis, ceux qui ramassent les balles, nous, on ramasse les survettes et les affaires des nageurs quand ils se présentent derrière le plot et qu'ils se mettent en maillot. Et vite, vite, tu cours de l'autre côté pour aller leur ramener ou tu l'amènes à la zone.
Comment ça ? Les enfants qui font ça, ils ont... Ça, c'est...
Je sais même pas.
Tous bénévoles,
bien sûr. On est tous bénévoles, on est tous des nageurs du club. Mais du coup, tu te retrouves derrière, à cette époque, le nom du sprint mondial, c'était Alexander Popov.
Et c'est pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui, exactement. Et moi,
Il y a des sprinteurs français ?
À cette époque, ouais, il y a fin de carrière Christophe Calfayan, mais que j'ai quasiment pas vu, moi. Il y a des Romain Barnier.
Ah d'accord.
Voilà, okay. Qui sont là, qui sont en train d'émerger, mais pas plus. Okay. Voilà, on reviendra là-dessus parce que derrière, je découvre les Jeux Olympiques aussi l'année suivante et je commence à suivre un peu l'équipe de France, mais il n'y a pas de sprinter. Il y a Christophe Calfayan, ouais, en sprint. Stéphane Caron, qui a été médaillé olympique en 92, a déjà arrêté. Bref, donc non, il n'y a pas vraiment de sprinter français, mais par contre, je vois Alexander Popov qui pour moi est ma référence parce que me prédestine déjà à être un sprinter. Forcément. Et donc, je vois Alexander Popov qui est double champion olympique en 92 à Barcelone, double champion olympique qui deviendra par la suite double champion olympique à Atlanta en 96. Et en plus de ça, enfin, au-delà de l'athlète et du palmarès, tu as en face de toi un mec qui a un charisme et une prestance incroyable. Cette froideur russe, évidemment, mais cette, je parle presque de noblesse athlétique. Il a une... Dans l'eau, c'est incroyable à voir nager. C'est d'une fluidité, c'est une glisse que j'ai jamais revue dans un autre nageur. Chez un autre nageur, pardon. Mais hors de l'eau, une classe et une élégance qui imposent le respect. Et donc moi, gosse, à ce moment-là, la transposition, elle est facile. Je me dis, plus grand, je vais comme lui. Voilà.
Et t'as quel âge à ce moment-là, quand tu le vois ?
J'ai 15 ans. 15-16 ans. Et en fait, de là, il n'y a pas uniquement, Popov. À l'époque, les stars de la natation, c'était les Russes, essentiellement.
Quel était l'engouement pour les Jeux et quel était l'engouement pour la natation pour les Jeux de 92 ?
L'engouement au niveau du public, de ce que je me rappelle, moi, c'était plus tourné vers l'athlétisme.
Ouais.
À cette époque-là, on a Jean Galfione, on a Marie-Josée Pérec. Et à l'instar de la natation où... si tu veux, le seul visage de l'équipe de France en 96, c'est un peu Franck Esposito. Et en fait, la natation aux Jeux Olympiques, la natation française, l'équipe de France aux Jeux Olympiques de 96, elle s'effondre un peu. Enfin, elle s'effondre. C'est qu'elle n'est pas à la hauteur de ses attentes ou de ses espoirs. De mémoire, je crois que Franck finit quatrième du 200 mètres papillon et que c'est le seul athlète de l'équipe de France de natation à accéder à une finale. Et en fait, il y a une décomposition majeure qui se fait à ce moment-là parce que du coup, le DTN en place décrit un petit peu des athlètes, se dit qu'une fois qu'ils ont passé le cap des sélections, ils se mettent un peu en mode Club Med et l'objectif, il est de participer au jeu, mais pas de briller là-bas. Enfin, donc, il y a une petite mise en opposition qui se crée au niveau de l'équipe de France, au niveau des athlètes et des dirigeants et de la Fédé. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve un peu dans tous les sports.
Qui se reproduit malheureusement de temps en temps, quand ça va pas, quoi.
Ouais, voilà, quand ça va pas, exactement. C'est vrai que quand tout va bien, c'est beaucoup plus facile. Et donc, du coup, natation française, on n'en parle que très peu. Et surtout, quand on en parle, c'est plus pour dire ils se cassent la gueule. Ils sont pas à la hauteur, blablabla, blablabla. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un immense gap de niveau entre... la natation américaine, la natation russe, les Chinois et le reste de la natation européenne. Il n'y a pas une énorme natation européenne et il n'y a pas une nation française qui peut rivaliser avec les grands de cette époque-là. Donc l'engouement, il est tourné vers d'autres sports. De mémoire, il y avait aussi de la gym. Je ne me rappelle plus les athlètes en lice à cette époque-là. Mais bon, bref, on va chercher un peu le judo, évidemment. David Douillet, pardon, j'oublie, mais enfin, d'autres sports qui font que l'équipe de France olympique brille quand même, mais pas grâce à la natation. Donc, il y a très, très peu d'engouement. Et de ce que je me rends compte et mes souvenirs au niveau de l'engouement du public, au niveau de la natation, c'est que sur mes premières années, en fait, la natation n'existe qu'une fois tous les 4 ans. Au moment des Jeux, c'est là que la natation prend de l'importance parce que par définition, on dit souvent que l'athlétisme et la natation sont les deux sports phares des Jeux Olympiques. Le reste de l'année, le reste des 4 ans, la natation n'intéresse que très peu. Mais encore une fois, tout s'explique au niveau, par rapport aux résultats également. L'engouement, tu le crées par rapport à des exploits sportifs et les gens veulent s'intéresser. Enfin, aujourd'hui, je crois que pour faire un parallèle en ce moment avec la GP500 en moto, par exemple, je pense qu'il y a eu très rarement autant d'engouement au niveau du public français pour les Grands Prix moto que depuis que Quartararo et Zarco brillent et sont sur le haut du tableau. Et moi, le premier, d'ailleurs. Moi, le premier, alors bien évidemment, fasciné par Rossi à la grande époque, mais j'aurais pas été capable de suivre, ou j'aurais pas voulu suivre l'ensemble du championnat. Aujourd'hui, j'étais tout excité dimanche quand il y a eu le premier Grand Prix du Portugal. Bon, un peu déçu, mais content pour Zarco en 4e, déçu pour Quartararo en 8e, mais peu importe, voilà. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi que la natation s'est fait un nom. C'est pas parce que du jour au lendemain, les gens se sont dit « Ah, la piscine, c'est sympa, les piscines sont jolies, les nageurs aussi. » Non, c'est parce qu'il y a eu des résultats et que l'attention s'est tournée vers nous et que derrière, l'engouement s'est créé. Mais à cette époque-là, en 96, il n'y en a quasiment pas.
Ok, mais toi, t'y crois ?
Moi, j'y crois parce que c'est ce que j'aime, en fait. Donc, je me pose pas toutes ces questions. Après, je suis jeune. À ce moment-là, j'ai 15 ans. Je suis assez jeune. Je me pose pas toutes ces questions. Est-ce que c'est un sport qui attire beaucoup de gens? Non, c'est un sport qui m'attire à moi. Et je vois que moi dans ma vie à ce moment-là. Donc, je me pose pas 10 000 questions. Je fais ce que j'aime et j'ai envie de... Je suis pas dans le truc de me dire je veux passer à la télé ou je veux passer à faire la une des journaux. Non, je veux être le meilleur.
Ouais. Et du coup, ça crée ce déclic chez toi, où tu te dis j'ai envie d'y être également.
Ah ouais.
T'en parles autour de toi, ou c'est un secret que tu gardes pour toi ?
J'en parle autour de moi, pas forcément, non, pas au début. Non, à 96, quand ça, je me rappelle, tu sais que ça, je l'ai encore. Il faudrait que je le retrouve parce que ça, c'est. Je fais la rentrée scolaire, pas une collège 3e, toujours très attentif en cours, à dessiner sur ma gomme et à écrire sur ma gomme. JO Sydney 2000. Sur toutes les faces de ma gomme, j'écris JO Sydney 2000 au bic.
Ok.
Voilà.
On a tous fait
jours...
ça en plus d'écrire un truc sur cette gomme.
Ouais.
Quoi.
Mais d'habitude, t'écris des conneries en fait. Ouais, t'écris
le nom de ta
Ouais, voilà. Exactement. Le nom de ton joueur préféré ou quoi. Moi, j'écris JO Sydney 2000 et je le répète. Et en plus, à cette époque-là, j'ai jamais été un délinquant. Hein. Maman, rassure-toi, j'ai jamais fait de conneries, mais j'aimais bien écrire sur les murs. J'aimais bien taguer, j'aimais bien graffer, etc. Donc du coup, je graffe sur mes leçons et plutôt que de graffer mon pseudo, je commence à graffer JO Sydney 2000. Et ça sort de partout, JO Sydney 2000 qui revient à chaque fois. Et en fait, ça rentre dans ma tête petit à petit, mais c'est mon message personnel. Et c'est là que mon rêve, il continue. Et je sais que cette gomme dont je te parlais, je l'ai encore dans un de mes cartons, je l'ai gardé ça. Donc voilà, et ça grandit en moi comme ça. Et je commence à l'exprimer uniquement l'année qui précède les Jeux, en 99. Je change de club cette année-là et je rentre en Pôle France. Je rentre en sport-études à Antibes. Je rentre à l'internat, au Creps. Donc je quitte le foyer familial, je quitte maman et j'arrive au Creps. Et là, je vis un changement radical parce que tu deviens un peu plus indépendant, même si tu n'as pas du tout la maturité pour l'être. Donc tu décuples les conneries, mais aussi tu décuples le nombre d'entraînements. Donc je galère toute l'année pour être à niveau, pour suivre le rythme. Mais en même temps, je me lie d'amitié avec des copains et avec les copains qui sont au Creps avec moi, etc. Et je me rappelle d'une soirée, d'ailleurs mon meilleur ami, qui est le parrain de ma fille et que j'ai rencontré à cette époque-là, qui était nageur, il me le rappelle souvent, on se fait une petite soirée au Creps. On n'a pas le droit de faire des soirées aux crêpes, désolé, hein, mais bon, on se fait une petite soirée aux crêpes quand même. Et cette époque-là, bah, on se ramène 2-3 bouteilles qu'on a chippées au supermarché. On s'alcoolise comme des gosses de 18-19 ans. Voilà.
Avec du Malibu, quoi.
Malibu coco. Voilà. Et donc, on écoute de la musique, etc. Tous dans ma chambre. On est 4-5 dans ma chambre, fenêtre ouverte, etc. Et d'un coup, dans mon petit délire, je m'ouvre un peu aux autres et je monte sur le bord de la fenêtre. Alors rassurez-vous, hein, on est en rez-de-chaussée, hein, donc il n'y a pas de bide, je ne prends pas de risque, etc. Je suis quand même quelqu'un d'assez peureux dans la vie, donc je ne prends pas de risque. Je monte sur le bord de la fenêtre et je leur dis, avec mon verre comme ça, je leur dis, les gars, un jour j'irai au jeu. Et là, on est en mois de novembre 99, quoi, tu vois. Et ils éclatent tous de rire. Mais moi, le premier, de ma connerie, de l'exprimer et tout ça. Et puis au mois d'avril 2000, viennent les sélections pour les Jeux Olympiques. Et je me qualifie. Mais sorti de nulle part. Enfin, c'était vraiment. Enfin, je fais une progression qui n'était pas du tout prévue. Je gagne plus de 2 secondes et demie sur mon chrono aux 100 mètres.
En 6 mois comme ça?
Ouais. Et je rentre en équipe de France sur le relais. Et en fait, ce relais, il doit passer une étape supplémentaire parce que. Il y a eu des déconvenues avec les dirigeants et le DTN. Donc, il n'avait pas trop confiance dans les relais à cette époque-là. Il avait peur de prendre des touristes. Donc, il dit non, le relais, il faut qu'il fasse, qu'il ait une sélection supplémentaire. Il doit participer au championnat d'Europe et il doit faire un temps en relais ou bien podium au championnat d'Europe.
Sinon, on ne présente pas le
Sinon,
relais.
Sinon, il n'est pas pris au jeu, même si les 4 nageurs sont dans le truc, etc. Donc, en fait, il nous rajoute des petits bâtons dans les roues, mais c'est pour s'éviter des déconvenues comme il a vécu à Atlanta. Avec le recul, je peux le comprendre, mais à cette époque-là, je me dis que, mais quel enfoiré, ce mec, quoi. En fait, dis-le clairement, si t'as pas envie de prendre des nageurs, tu les prends pas, tu le dis d'entrée, tu nous fais pas faire des compétitions en plus qui vont nous couper dans notre préparation et avec des objectifs qui sont quasiment, qui ne doivent pas être atteints, enfin, que tu mets pour pas qu'ils soient atteints, en gros. Parce que bon, on parle d'un relais français qui n'est pas qualifié en finale des Olympiques et 4 ans plus tôt, et qui là, pour le qualifier aux Jeux Olympiques, doit être sur le podium au championnat d'Europe. Alors ouais, on est sur la voie de l'excellence, mais il y a des étapes intermédiaires avant d'arriver à l'excellence. Et là, il nous coupe vraiment l'herbe sur le pied. Mais pas vraiment, en fait. Parce qu'on est arrivé, puis on crée la surprise, on fait 3e. Ouais. On fait 3e. Donc là, c'est l'explosion de joie. Et on est qualifié au jeu. Et donc, je retourne à Antibes après ces championnats d'Europe. Et je retourne au Krebs. Le torse comme ça. Alors les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Et en fait, voilà, c'est parti de là, quoi.
Ok, d'accord. Tu faisais beaucoup de relais avant ça? On peut voir ça un peu, le relais en natation. On se dit, est-ce qu'il le bosse à l'entraînement? Est-ce que c'est juste pour les grosses compètes, justement, que les mecs se voient et commencent à s'entraîner, tu vois?
Pas du tout. Jusque-là, sport individuel à fond, mais courses individuelles, on fait pas de compètes où il y a des relais. Donc non, uniquement les épreuves individuelles. Mais par contre, je découvre l'équipe à travers les relais et je me retrouve un peu plus, en fait. Je me découvre. Le relais me transcende, m'anime profondément et me transcende.
Ça accompagnera toute ta carrière, d'ailleurs.
Ouais, et en fait, c'est là où je me découvre et je me comprends que je suis meilleur à faire pour les autres, y compris pour moi, mais pour les autres, que tout seul. J'arrive à me transcender pour un relais de manière incroyable, quelque chose que je n'arrive pas à reproduire en individuel. Ça a été une problématique qu'il a fallu solutionner d'ailleurs à un certain moment, mais le début de ma carrière, il se passe par les relais et c'est ce qui m'anime le plus. Le relais, et après je découvre les compétitions par équipe parce qu'en agent pour le club d'Antibes, on participe à une compète qui s'appelle les Interclubs. C'est pour définir le meilleur club français. Et donc là, c'est une compétition par équipe. Chaque nageur nage pour son club, rapporte des points pour son club. Et là, tu te transcendes pour les autres. Tu te transcendes pour les collègues. Et t'as juste une envie, c'est d'écraser les autres pour ramener des points à ton équipe. C'est ce que je retrouverai plus tard aussi en partant aux États-Unis et en faisant les championnats NCAA, nager pour mon université et faire en sorte qu'elle soit la meilleure.
Ok. Tu sais d'où ça vient, cette envie de te surpasser pour les autres et peut-être de ne pas réussir à reproduire quand c'est une compétition individuelle?
Alors, si je le mets de manière un peu péjorative, je pense que ça serait par manque de courage de ne pas assumer et de ne pas savoir m'exprimer à mon plein potentiel et de ne pas assumer que je peux être bon quelque part à cette époque-là. D'être vraiment introverti. J'étais hyper timide, réservé, introverti. Ouais.
Ah, j'aurais jamais dit ça de toi, quoi.
Mais tellement. Ouais, okay. Ouais. Tellement. À rester dans mon coin, à me trouver complètement inintéressant, moche, tout ce que tu peux imaginer de négatif, je me voyais moi. Donc forcément, quand tu montes sur le plot et que bah, tu ne te sens pas très à l'aise dans ton corps et dans ta vie, bah, tu as du mal à exprimer ton plein potentiel, même si tout le monde a beau te le dire, ouais, tu es super fort, ouais, tu as des qualités, etc. Si toi, tu n'y crois pas, la machine ne fonctionne pas. Par contre, eh ben, tout ça, j'arrivais à le mettre de côté pour le relais, pour les copains, parce que en fait, je ne me voyais pas dans le miroir, je voyais mes copains en face. Et je me disais, je vais me défoncer pour eux. Je vais mettre minable pour eux, pas pour moi.
Ouais. Est-ce que tu te disais, ouais, je veux pas être justement ce petit gosse qu'on va moquer ou être, ah tiens, ah, si on a perdu ça à cause de Fred et tout.
Alors ouais, j'avais cette peur-là, mais après aussi, rapidement, j'ai eu plus... Alors, la peur d'être le mauvais élément du relais, même si par la suite, en grandissant et en prenant de l'expérience, tu comprends et tu découvres qu'il n'y a pas de mauvais élément dans un relais ou dans une équipe, que l'équipe, elle gagne ou elle perd ensemble, en équipe, pas à cause d'eux ou grâce à. Mais par contre, à cette époque-là, de cette peur est venue l'envie d'être le maillon fort. Et je voulais être celui qui fait l'exploit. Donc, en fait, je voulais être celui qui terminait. Celui qui remonte la course, celui qui passe l'adversaire ou celui qui rattrape les autres. Et c'est comme ça que j'étais animé. Et mes premiers relais, je les ai vécus comme ça. Et mes premiers relais en équipe de France, je les ai vécus comme ça avec un mec qui s'appelle Romain Barnier, dont je parlais tout à l'heure, qui par la suite deviendra mon entraîneur, mais que je découvre en club avec Antibes, puisqu'il nage à cette époque-là pour Antibes, même s'il s'entraîne aux États-Unis, mais que j'ai découvert en équipe de France en 2000, au Jeux de Sydney, et qu'on se retrouve à nouveau en 2003 pour les championnats du monde. Et en 2003, pour les championnats du monde, je te fais la petite anecdote rapide, mais on est en finale du 4x100 mètres nage libre. On a fait le troisième temps des séries le matin, mais on est parfaitement conscient que ce n'est pas une vraie troisième place parce que bah, le matin, nous, on a mis notre équipe, les quatre meilleurs Français. On n'en a pas cinq, on n'en a pas six, on en a quatre. Par contre, les équipes américaines, russes et compagnie, les Australiens et compagnie, ils ont mis leur équipe bis et ils font rentrer les gros calibres l'après-midi. Donc on est parfaitement conscient. Par contre, on se dit, on a une chance inouïe, c'est qu'on va vivre une finale en étant au milieu du bassin et pas sur les extérieurs. Donc on va être vraiment dans le cœur du poulet et dans la bagarre. Donc on y va, on va kiffer quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout au long de la course, moi je suis prévu pour partir en quatrième position, en quatrième relayeur. Et tout au long de la course, en fait, on se fait malmener, on se fait déglinguer. On a les Russes d'un côté, les Américains qui sont encore après, mais on est entre les Russes et les Italiens. À cette époque-là, on a déjà une petite rivalité avec les Rital, mais elle est au-delà du sport, tu vois, elle est plus dans la culture franco-italienne où tu te mets en compète avec les Macaroni dès que tu les vois, en fait. Ils t'énervent, ils sont plus beaux, ils sont plus classe, ils sont plus bronzés, ils vont plus vite, machin,
plus
etc. Donc, ils parlent plus fort, ils sont chiants, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui fait dès ma carrière en junior et tout, on a déjà cette rivalité avec les Italiens. Et en fait, on se retrouve avec eux, enfin à côté d'eux, et derrière eux pendant la course. Mais derrière. Et en fait, ça met la haine. Et en fait, Romain lance le relais en première position. Et dès qu'il sort, il vient et il me parle. Et en fait, moi, je suis face à la piscine, assis sur le fauteuil. J'attends mon tour. J'essaie de rester calme, de garder, canaliser mon énergie. Et à côté de moi, j'ai un Barnier en folie qui me parle et qui me dit des mots et qui m'insulte. Et qui me dit, oh, on va pas se perdre des... Enfin, bref, il me dit plein de choses. Tu vois Dragon Ball Z? Voilà.
Bien sûr.
Je suis prêt à monter sur le plot et à tout arracher. Et c'est ce qui se passe. Il y a un moment magique qui se passe. C'est que à ce moment-là, on est en 2003. Mon meilleur chrono au 100 mètres, pour situer un peu au niveau chronométrique, c'est 49,3. 49 secondes et 3 dixièmes. Je pars et je fais mon 100 mètres à fond de calme. Mais dès le premier mouvement, je suis à fond de calme. Je suis à 150%. Je me dis, tu vas exploser, mais tu vas exploser comme un feu d'artifice, c'est pas grave. Tu vas aller jusqu'au bout de ta connerie. Et je passe à fond 50, et je reviens, et je vois le Rital, je commence à voir ses pieds. Et je me dis, putain, je vais le bouffer. Et en fait, pendant tout le deuxième 50, je me dis que ça, je vais le passer. En fait, je le passe, après je continue, en fait, la fatigue, elle vient pas. Quand je touche le mur, je regarde mes coéquipiers, ils ont la mâchoire qui est jusque là, et je me retourne.
Tu comprends un truc.
Ouais, et je me retourne, et je vois qu'on est troisième. Que non seulement j'ai remonté le Rital, mais j'ai remonté les 5 autres équipes. Et qu'on est troisième. Et qu'on vient de battre les Australiens avec Yann Thorpe de 1 centième.
Okay, ouais.
J'avais Yann Thorpe, je n'avais même pas capté que j'avais Yann Thorpe de Nina à côté. Et que je venais de le rattraper, de le battre et que je lui ai mis 1 centième. et mon chrono dans ce relais, il est à 47 secondes et 0,3 centième. C'est le chrono le plus rapide de l'histoire à cette époque-là. Hein. Et en fait, voilà, moment magique. Et qui me fait vraiment... partir sur le relais, cette histoire du relais. Et l'histoire du relais, elle commence à ce moment-là, d'ailleurs. Et on se dit, putain, mais on a les capacités d'eux, les gars. C'est pas parce qu'on est français et que jamais personne n'a gagné en France qu'on peut pas y arriver. On va y arriver, nous, et on va le faire. Et on est en train de vivre un moment fabuleux. Et je te parle de ce relais, on est en 2003. Il y a un rookie dans ce relais. Il y a un mec qui vient de découvrir l'équipe de France, qui vient d'arriver en équipe de France, qui s'appelle Fabien Gillot. Et Fabien et moi, on prend ce relais à bras-le-corps, on se dit on va l'amener le plus loin possible et le plus haut possible. Quoi.
Ok, vous vous le dites tous les deux ?
Pas à ce moment-là. Oui. À ce moment-là, on est sur l'instant T, on est dans l'euphorie totale et on est en train de se dire putain, on va être sur le podium avec les Russes. Enfin, c'est les Américains qui gagnent, c'est les Russes qui gagnent, pardon, et les Américains qui font deux. Mais surtout, on fait un pied de nez à la planète entière. Des Français, un 4x100 Français sur le podium. Allô, quoi. C'est inimaginable.
Et pour toi, c'est un moment le plus marquant de ta carrière ?
Pour moi, c'est un des moments les plus marquants, mais en même temps les plus enfermants. Parce que, comme je te le dis, c'est un peu du coup à ce moment-là qu'il y a le déclic autour de ce relais, qu'on crée tout cet engouement et cette énergie, et où on met, où nous aussi, toute cette énergie autour du relais, mais où je m'oublie, du coup. En tant qu'individu, c'est que j'ai fait un exploit chronométrique dans ce relais. Cet exploit chronométrique, je ne sais pas le reproduire tout seul. Il faut dire qu'on est donc à ce moment-là, on est au championnat du monde en 2003 à Barcelone. C'est le premier jour de la compétition qu'on fait le relais et qu'on termine troisième. Donc je fais ce chrono. Et en fait, tout le restant de la compète, bah, j'ai le 50 crawl et le 100 mètres crawl aussi. Où du coup, bah, tout le monde s'attend à ce que je répète et que je gagne. Parce qu'à cette époque-là, quand tu nages 47 en relais, 47-0 en relais, ça fait du 47-8 ou 47-6 en individuel. C'est juste le record du monde. Et puis c'est surtout, t'es garanti à minima d'être sur le podium et d'être titré. J'ai pas du tout les épaules et la tête pour à ce moment-là. Et en plus de ça, bah...
Pourquoi tu dis ça, que t'as pas la tête et les épaules ?
Je suis pas prêt. Dans ma tête, je suis pas prêt. Ça va, d'un coup, ça passe un cap où je suis là en pleine construction et en recherche de me faire un nom et de me faire une place dans le gratin mondial du sprint. Je suis pas du tout prêt à prendre la direction. Et en fait, et surtout, ce qui se passe, c'est que précisé, c'est que je vais aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et là, on est au championnat du monde en 2003, 2001, 2002, il s'est rien du tout passé. Il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai vécu deux années blanches en termes de saison où je n'arrive pas à progresser, changement d'entraîneur à Antibes, ça ne se passe pas bien, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est sur la saison 2003, je viens de partir aux États-Unis et je viens de me redécouvrir et de redécouvrir le sport qui est la natation.
Okay,
donc je reviens un peu plus... voilà.
J'avais jamais fait le rapprochement justement entre ce... Tu vois, en lisant ton parcours, entre ce relais et ton départ aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir ?
Qu'est-ce qui m'a motivé ? En fait, depuis 2000, moment où je fais les Jeux là-bas, enfin à Sydney, l'entraîneur en chef de l'université dans laquelle je vais finir est également à cette époque-là l'entraîneur en chef de l'équipe olympique de natation américaine. Il se trouve que Romain Barnier... s'entraîne déjà dans l'université dont il fait partie. Donc il va voir Romain et dit Fred, il m'intéresse, je voudrais que tu le recrutes pour le faire venir à Auburn et qu'il s'entraîne avec nous, qu'il nage pour l'université. Moi, à ce moment-là, je viens de découvrir Antibes, tout va bien là-bas, je me régale, je suis sur la Côte d'Azur. À partir du mois de juin, je suis planté à Juan-les-Pins au bar. Le reste de l'année, je suis dans le Krebs, je m'entraîne en extérieur, j'ai la belle vie. T'es jeune, t'as 18-19 ans, tu découvres un peu tout, quoi. La vie, la Côte d'Azur, les filles, les voitures, tout ça. Et bon, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder ? Déjà, continuer mes études, ça, c'était vraiment pas mon fort.
C'est le deal aussi aux États-Unis.
Le deal, ouais, exactement. Continuer mes études. Et en plus au fin fond de l'Alabama, non, pas vraiment. En plus, ça marche bien au niveau sportif ici, pourquoi je partirais? Et en plus de ça, comme j'ai pas redoublé que ma sixième, j'ai également redoublé ma première, je suis à un an de mon bac, non, je suis dans l'année de mon bac, je lui dis écoute, déjà il faudrait que j'arrive à avoir mon bac, après on en reparle. Et à cette époque là je passe mon bac par correspondance avec le CNED, parce que toujours pas de structure scolaire à aménager pour pouvoir s'entraîner deux ou trois fois par jour. Donc tu passes ton bac comme tu peux, mais tu le passes quand même. Mais bon, bref, du coup, m'attendant pas du tout à avoir mon bac, je me dis, de toute façon, les études secondaires, enfin, l'universitaire, laisse tomber.
Tu penses même pas, quoi.
Exactement. Il se passe que j'ai mon bac. Il se passe que le mec, il revient à la charge et qui dit, je veux que tu viennes dans ma fac. Je veux que tu viennes nager pour l'université. Alors, on te propose une bourse scolaire complète. Et là, j'ai réfléchi à deux fois, mais en même temps, je me dis, putain, j'ai galéré vraiment tout au long de ma scolarité pour aller jusqu'au bac. Je veux faire une année off. Je sens aussi que je sature. J'ai trimé 2 années à bosser le lycée par le CNED. Il n'y a rien de drôle. Déjà, le lycée, à la base, il n'y a rien de drôle. Mais alors, encore plus quand tu es par correspondance et que tu dois te frapper tes bouquins tout seul dans ta chambre le soir. C'est pas cool. La surprise, déjà, d'avoir mon bac du premier coup, elle est totale. Bon, coup de chance. Je pense que j'aurais pu jouer au loto ce jour-là. Mais je l'ai.
C'est bien de le reconnaître.
Ah ben ouais, clairement, clairement. Mais je lui dis non, je veux faire une année où, en fait, je me focalise et je me concentre uniquement sur la natation. Je veux faire comme si j'étais pro. Voilà.
Mais t'as pas de source de revenus à ce moment-là.
Mon club me paye, mais c'est tout. Pas de sponsor, rien du tout. Mais mon club me paye et ça suffit. J'ai le Krebs qui est payé. Quand t'as 19 ans, t'as pas besoin de 1000 et des 100. Hein. T'es logé, nourri, blanchi. C'est de l'argent de poche, c'est génial. Hein. L'argent de poche pour aller faire le con le week-end. Et donc, du coup, je fais un an comme ça. Et l'année, sportivement parlant, c'est pas bien. Humainement, génial, évidemment. Mais sportivement, je régresse. Je régresse et je me qualifie même pas en finale du 100 mètres au championnat de France. Alors que je suis sélectionné en équipe de France 2 ans avant, etc. Mais le mec de l'université revient à la charge. David Marsh, il s'appelle. L'entraîneur.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En chef. Elle me dit, Fred, t'as des qualités que j'ai jamais vues. Je te veux. Il y a toujours une bourse scolaire complète qui t'attend. On parle de 60 000 dollars quand même. Une année dans cette fac, c'était 60 000 dollars à l'époque. Et je fais bon,
ouais,
ok.
Plus, ouais, c'est ce qui te permet de vivre, quoi, en plus.
Alors, ouais, ça me permettait
de vivre,
ouais,
ouais. Nourrir un peu.
Ouais, léger, mais tu t'en sors. En fait, ce qui m'a poussé à ça, je réfléchissais, je termine ma saison. Et en fait, il y a eu un fait, c'est que je termine ma saison et comme chaque fin de compète, on va faire la fête avec les copains. Et je sors avec deux personnes que je pensais mes amis à l'époque et on va à Juan-les-Pins. On va en boîte, on s'amuse.
Au village ?
Non, on était au Pulp à l'époque. Le Milk,
ah, okay.
Qui est devenu
Milk,
le Milk.
Milk,
ouais, mais le
Milk.
Tu connais. Okay.
Mais bien sûr, j'ai fait tous mes étés à
Juan-les-Pins.
Voilà,
donc j'avais une copine qui bossait là-bas, on va la voir, on passe la soirée, etc. Et sorti vers 4 ou 5 heures du matin, on est dans la rue, on marche. Et puis il y a un mec qui nous aborde, qui nous dit « Vous n'avez pas une clope ?» Et non, désolé, on n'en a pas. Le gars, un des gars qui était avec moi, dit « Nous, on ne fume pas. » Mais il le dit un peu sèchement. Ça n'a pas dû plaire au mec, il est remonté dans sa voiture, il nous a foncé dessus. Il ne nous a pas renversé, on l'a évité de justesse. Mais moi, un petit peu alcoolisé, pas fanfarant, mais toujours dans le bisounours. Je m'approche de lui quand il commence à sortir de la voiture, mais en mode viens, regarde, je dois avoir de la monnaie, on va se trouver un bureau de tabac. Enfin, en plus, vraiment dans cette démarche-là. Et en fait, je vois pas que le mec, il est en train de sortir avec une barre à mine et qu'il m'éclate la gueule. Il me prend ici, il me prend au cou, juste là, juste en dessous de la mâchoire, à un premier coup, et puis ça n'a pas dû lui suffire parce qu'il s'était pas assez calmé. Donc quand je suis dos à lui, il m'écrase la barre à mine sur le crâne. Et je me retrouve 3 mètres plus loin sur le trottoir avec le crâne ouvert, du sang partout, je perds connaissance, etc., etc. Donc je commence mes vacances en passant 3 jours à l'hôpital avec 13 points de suture dans le crâne, traumatisme crânien, les vertèbres, une entorse des cervicales due au choc. Et là je me dis, mais en fait c'est pas ça quoi, c'est pas ça que j'ai envie de vivre, c'est pas l'endroit où j'ai envie d'être. Et donc en fait ça me conforte dans mon idée et je me casse. Et je dis, je vais aller m'expatrier là-bas. Bon, il y avait un travail qui avait été fait par Romain hein, Barnier sur viens, tu verras, la vie universitaire, la vie d'étudiant là-bas. Tout est fait pour accompagner l'athlète. Tu n'es pas nageur, tu deviens un athlète et tu n'es pas étudiant, tu es athlète-étudiant. La notion d'athlète et d'étudiant est vraiment mise sur le même pied d'égalité. Tu seras traité comme un étudiant, mais qui fait du sport, donc accompagné, supporté, aidé par les autres étudiants, par tes profs. Enfin bon, il me vend le truc vraiment bien. Il me dit, tu vas voir, en plus, c'est quand même drôle. T'es sur un campus où il y a 20 000 étudiants. Les nageurs sont un peu les fanfarons du campus. Il y a les joueurs de foot américains aussi. Enfin, bref, il me vend le truc. Et puis ça déclenche le reste, quoi. En fait, et je me dis, non, faut que je me casse. Je suis pas bien ici.
Ouais, je me casse. Ouais, je peux comprendre. Ouais.
Donc, Voilà.
C'est marrant, tu vois, j'aurais jamais dit que c'était aussi dangereux jouant les pins, tu vois. Enfin, j'ai pas connu cette.
Bah, il était camé, le mec était clairement camé, et je pense que quelques semaines après, il a dû se retrouver dans une poubelle ou fin fond d'une poubelle, c'est pas. Mais c'est un fait, c'était anecdotique, mais pour moi, c'était un signe aussi. Je me suis dit. Ouais. Et puis en plus, ça m'a fait refléter sur la vie que je menais. Je veux dire, si j'avais été un minimum sérieux, si j'avais pas déconné comme je le faisais tous les week-ends à sortir, aller au bar ou aller en boîte, etc., ça me serait pas arrivé. Si j'avais vécu une vie d'athlète responsable, mature et orienté vers ses performances, j'aurais pas été à cet endroit-là, 4h du matin, à être au milieu d'une faune qui correspond pas à la vie à laquelle j'aspire. Donc à moi aussi de faire mes choix.
Du coup, pourquoi tu fais ces choix-là, tu vois, alors que tu as déjà eu une sélection en équipe de France au jeu ? C'est la vie de jeune qui t'attire, où il y a trop de tentations, tu commences à en vivre, tu vois ?
Il y a des tentations dans lesquelles je m'engouffre, évidemment. Faut pas oublier, j'avais 18 ans à l'époque, je sors de ma petite campagne perpignanaise, je découvre la Côte d'Azur avec tout ce qui peut briller, toutes les nanas,
les tentations.
Enfin, voilà, les sorties, tout ça. Et donc forcément, je tombe là-dedans parce que ça m'attire, parce que à ce moment-là, nageur, tu commences à prendre un peu de carrure, tu commences à te dire je suis pas si mal par rapport aux autres physiquement, tu plais. T'aimes plaire, donc tu te dis j'aime être avec des gens à qui je plais, j'aime être flatté, et je vais continuer d'y aller. Mais c'est des gens qui n'aspirent pas à la même quête sportive que moi, et donc du coup, à un moment il faut que je m'en détache. Et à un moment il faut que je m'en détache, et puis à un moment aussi, même si tu le dis, j'ai vécu une première sélection en équipe de France, j'ai vécu des beaux moments, mais ça me suffit pas et ça me convient pas, parce qu'une fois que j'ai vécu les Jeux, si tu veux, j'ai vécu les Jeux à Sydney en 2000, on fait deux finales. Finale au 400 mètres nage libre, finale au 400 mètres 4 nages. Donc je suis très content, mais ça ne me convient pas. Moi, je veux faire une médaille. Maintenant que j'ai vécu les Jeux, maintenant que je sais ce que c'est, maintenant je veux faire une médaille. Mais je veux être plus fort et je veux être dans les meilleurs. Et puis d'ailleurs, après, tu as tous tes rêves qui deviennent des objectifs et tu te dis, mon rêve, c'est d'avoir une médaille olympique. Par la suite, mon rêve, c'est d'être le nageur le plus rapide du monde. Mon rêve, c'est de battre le record du monde. Mon rêve, c'est d'être le premier nageur à casser cette barrière. Mon rêve, c'est d'être champion d'Europe. Mon rêve, c'est champion du monde. Et puis, c'est comme ça que ça se déroule, quoi.
Ouais, bien sûr. Tu penses que c'est une chance qu'il y ait eu un lien direct de corrélation entre trop de soirées, alors il en faut toujours un peu, il faut décompresser, hein, et une régression, tu vois, en termes de performance. On ne s'attend pas à un athlète de 19-20 ans à régresser.
Mais parce que quand tu fais tout de travers et que tu fais tout ce qu'il ne faut pas, en fait, évidemment, le corps, il ne suit pas. Et puis, c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'étais pas aussi talentueux qu'on avait pu essayer de m'en convaincre, et que sans un minimum de travail, j'y arriverais pas. Mais c'est ça qui m'a donné aussi le déclic. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis devenu un acharné du boulot. Alors, ce qui est assez paradoxal.
Tu as dû être entouré d'autres acharnés.
Ouais, mais c'est assez paradoxal pour un sprinter, parce que les sprinteurs associés à branleurs. Sprinter-branleur. On est les derniers arrivés, on est les premiers sortis, on est les premiers à faire les kékés au bord du bassin. Mais pour autant.
Mais vous avalez quand même déjà énormément de kilomètres.
Alors, on avale énormément de kilomètres dans la mesure du possible, parce qu'au bout d'un moment, moi physiquement, mon corps ne suit pas, donc tout est adapté aussi. Mais par contre, je fais tout à 100% à ce moment-là. Je fais tout à 100%. Je me donne corps et âme. Et en plus de ça, je découvre la pratique d'un sport individuel, mais de manière collective. Elle est paradoxale, cette phrase, mais parce que tu fais un sport individuel, par contre, tu t'entraînes en équipe. Et je découvre que la réelle définition du mot équipe, du mot collectif, l'entraide, l'accompagnement, le soutien, le support, l'encouragement. Les jours où j'étais moins bien, ils étaient là. Les jours où j'étais moins bien, j'étais là. Et c'est là que ça crée une putain de dynamique. Et en fait, le matin, tu te lèves. La première année là-bas, je m'entraînais à 5h du matin le matin. Ça veut dire que tu te lèves, il est 4h. Tu te lèves pas pour ta gueule. Hein. Tu te lèves pour la gueule des autres. Parce que tu sais que tu vas au charbon avec tes collègues. Parce qu'en fin d'année, tu vas affronter les autres universités et tu fais bloc. Et c'est au-delà de la famille. C'est un bloc. On est un groupe militaire presque. On a débarqué en mission. Et c'est de là, je suis désolé, c'est peut-être un peu décousu, mais d'ailleurs, on gagne 3 fois le titre national de champion universitaire, 3 années d'affilée, les 3 années où j'y suis. Et on est en mission et on a décidé d'être les meilleurs. Et on n'est pas parti avec les meilleurs au départ, mais on est la meilleure équipe. On n'est pas les meilleurs individus, mais on est la meilleure équipe.
Ah, il est incroyable, je trouve, ce système universitaire pour ça, dans le sport. En tout cas, je trouve à faire de vous des athlètes effectivement de sport individuel et à vous montrer l'importance du collectif, l'importance de se tirer vers le haut, l'importance de se challenger, de s'entraider, de montrer que tu vieillis, donc tu as des plus jeunes qui arrivent et tu deviens, t'arrives, t'es le rookie et puis on te fait...
Tu montes ton échelon et tu prends un rôle différent chaque année au sein de l'équipe. Et ma dernière année, j'en ai été capitaine. La première année, je parlais quasiment pas un mot d'anglais. les mecs, limite, ils me parlaient avec des signes. Et je me retrouve la troisième année, ma dernière année en équipe, à être le capitaine, à être le leader, à être le mec qui leur parle avant les courses, avant la compétition, etc. Mais ils m'ont fait prendre une telle envergure et une telle maturité mais en tant que sportif, mais également humain, de se montrer, de se démontrer nos qualités de leadership, de management également, parce que tes coéquipiers, alors c'est bien beau de nager avec eux, de nager contre eux, de les pousser, mais il y a une autre approche, il y a une approche humaine aussi. Il faut les considérer, il faut qu'on se considère entre nous, il faut accompagner, il faut comprendre pourquoi cette semaine il est dans le dur. Est-ce qu'il y a du perso, du scolaire, du physique? Et là, tu te mets vraiment à l'écoute des autres. T'es pas uniquement centré sur toi-même, t'es centré sur les autres. En fait, à partir du moment où tout le monde met ça en application, eh bien, ça crée une synergie globale et totale qui nous permet à l'arrivée d'être à notre meilleur niveau possible.
Ouais, ok. Et ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec Jimmy Vico, tu vois, en sprint, qui est parti lui aux États-Unis, tu vois, tardivement. Tu vois, il fait ce choix-là de rejoindre un groupe d'entraînement et tout, qui est calqué sur une université. Et il me dit, un jour, je le sentais pas, j'avais pas envie de m'entraîner. Et il y a un gars qui lui fait, qui fait des moins bons temps que lui, mais tu vois, ça joue à des centièmes. Et qui lui tape dans le dos, qui lui dit, si tu viens à l'entraînement, sinon j'aurais personne à qui botter le cul aujourd'hui. Et il me dit, en fait, c'est challengeant. Au début, ça te met une petite claque, mais tu te rends compte que c'est quand même bienveillant. Et puis, en tant qu'athlète, tu as besoin de ça. Quoi.
Ouais, mais c'est bienveillant. Et puis, c'est la réalité du fait, c'est qu'on se sert les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour progresser. Et c'est ce qui nous a accompagnés même fin de carrière à Marseille. J'ai quand même passé 10 ans aux États-Unis, donc 10 ans à être dans cet esprit-là, dans cette méthodologie-là. Et je finis ma carrière à Marseille entre 2012 et 2017. Et c'est l'arrivée de Florent à ce moment-là aussi, à Marseille. Et on met ça en application. Flo et moi, on est adversaires. Flo et moi, on est dans la même catégorie et la même course. Et pourtant, on se sert l'un de l'autre pour progresser. Et on est dépendant l'un de l'autre pour progresser. Les deux premières années de Flo à Marseille, surtout la première année, Flo, il arrive, il est tout jeune encore, il a un peu peur. Et il a 19 ans, il a la peur qui vient avec cette jeunesse. Ce qui se passe, c'est que je lui en veux beaucoup cette première année-là parce qu'il arrive avec cette peur du jeune qui découvre un peu l'entraînement de haut niveau, la régularité, la difficulté, la fatigue, etc. Et il nous saute pas mal d'entraînement. Il y a plein de matins où il vient pas et il dit « ouais, j'ai une migraine ». Ça me fait chier à ce moment-là. Pour lui, parce que je vois le potentiel, je vois le truc gâché. Parce que moi, je suis dans une dynamique à ce moment-là où bosser. Et lui, il est préservé. Et donc, je suis là à me dire, putain, mais ce gosse, il a tout. Il fait 2 mètres, il a la force, il a le côté aquatique. Et il gâche ce putain de talent que moi, j'ai pas, que j'ai toujours voulu, et en ne venant pas. Et en plus de ça, moi, je vais moins progresser ce matin parce qu'il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là à me pousser. Donc, en fait, la première année, on se frite un peu, on se titille l'un l'autre pour, tu vois, je lui envoie des pics, etc. Et puis petit à petit, ça se règle et on se met sur la gueule tous les jours, mais de manière saine par contre. Jamais de problème d'ego, jamais de problème d'orgueil. Bien évidemment, on a été déstabilisés l'un l'autre, de la déstabilisation parce que sur certaines parties de l'entraînement, j'allais plus vite que lui, donc lui, ça l'énervait et ça le frustrait. Sur d'autres axes de l'entraînement, il était plus rapide que moi et je pouvais rien faire et j'arrivais pas. Donc souvent, Romain Barnier, qui était notre entraîneur, à la fin de l'entraînement, il avait une demi-heure de psychologie à faire avec l'un et à faire avec l'autre pour dire, les gars, c'est normal, vous pouvez pas être bon partout, blablabla, faut combler les faiblesses pour renforcer les forces. Enfin, voilà, c'était que des discours comme ça. Mais par contre, on s'est mis dessus à l'entraînement et j'ai vécu mes plus belles années grâce à lui et avec lui sur la fin de ma carrière parce que c'est le plus beau, en fait, de partager ça avec ton adversaire, mais qui n'est plus un adversaire, en fait. C'est au-delà, il y a de l'amitié, il y a eu les liens qui ont été créés. C'est un de mes meilleurs amis, mais cette fraternité qui se crée, avec le respect qui vient de savoir que l'un et l'autre, on vit la même chose, on a les mêmes manières de penser, ou parfois elles diffèrent, mais on en discute énormément. On a même, à un moment, on a été colocs, donc on a passé des soirées entières à discuter, à parler de nos approches de la performance, nos approches de l'entraînement, nos frustrations. Et ça a déverrouillé tellement de mécanismes, je pense, en nous, que ça nous a permis, ben, moi, ça m'a permis de vivre la meilleure fin de carrière possible. Je pense qu'elle aurait été beaucoup plus courte, à mon avis, sans lui. Et j'aime à croire que ça lui a permis de passer des caps beaucoup plus vite et ben, de gagner beaucoup plus, quoi.
Non, mais c'est vrai que... Écoute, merci pour cette belle éloge, déjà. Lui a été tout aussi élogieux, tu vois, dans le podcast à ton égard. Donc, je te confirme que tu lui as apporté beaucoup. Et tu vois, et ça montre, tu vois, que dans le sport... Et je pense que ça devrait être une belle image de la vie, tu vois. Une rivalité peut être parfaitement saine. La co-construction apporte à la compétition, en fait, tu vois.
Et c'est là où il faut savoir... Enfin, c'est plus facile aujourd'hui d'en parler parce qu'il y a quelques années qui se sont écoulées entre la fin de ma carrière et aujourd'hui. Mais là où on a l'impression de se mettre en péril parce qu'on donne des secrets ou des conseils à notre adversaire et de se dire « Mais pourquoi je vais essayer de le rendre plus fort ?» De prendre le recul nécessaire et de se dire « Mais qu'est-ce que ça vaut d'être le meilleur si tu sais qu'à côté, bah, le gars n'a pas les bons outils ou les mêmes outils ?» L'adversité, elle est principalement avec soi aussi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est à l'arrivée, moi, là où je me suis le plus épanoui et mes plus grandes fiertés, elles n'ont pas été de me dire « J'ai battu César Cielo » ou « J'ai battu Florent Manoudou ». Elles ont été de me dire « J'ai été le meilleur de moi-même. J'ai dépassé mes propres espérances ou j'ai atteint mes objectifs. » Que je batte Alain ou que je batte Fabien ou qu'il me batte, etc., c'est très secondaire. Voire éphémère, en fait. C'est pas ça que je retiens de ma carrière. C'est les caps que j'ai réussi à passer. C'est les limites que j'ai réussi à repousser. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, le partage de connaissances avec un adversaire, il devient sain parce qu'il devient constructif. À partir du moment, évidemment, où il y a un retour, c'est un échange. Évidemment, tu vas pas être là à tout donner, sinon tu prends le rôle d'entraîneur, coéquipier. Tu prends et tu donnes, tu prends et tu donnes. Tu prends et tu donnes et après t'analyses aussi, t'échanges. Tu reçois et tu dis non mais je suis pas d'accord avec ce que tu me dis ou ce que tu fais, je pense que c'est pas bon. Et t'échanges là-dessus, tu progresses également là-dessus. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de nous épanouir en tant qu'être humain également et de nous renforcer en tant qu'homme, en tant que personne au-delà de l'aspect sportif.
Ouais, ok. Je suis tout à fait d'accord, tu vois. C'est... En tout cas, c'est... je trouve que vous avez... extrapolé de ce que peut être l'amitié, tu vois, et de ce que peut être la performance ensemble. Donc c'est très beau, très très beau.
Mais toujours en gardant énormément de respect l'un pour l'autre. Par contre, voilà. Et... Bon, même si à certains moments il me maltraitait en me prenant pour son jouet parce que le mec fait 110 kilos, et quand t'en fais 80, forcément, ben, tu fais pas le poids. Mais bon, c'est flou, quoi. C'est un gros nounours.
Ouais, quand on le connaît, on sait que c'est un bisounours avant tout. À quoi tu penses ce fameux jour où il y a écrit en gros WR sur l'écran, tu lèves les yeux et que c'est ton numéro, t'es quelle ligne à ce moment-là, excuse-moi, j'ai pas mes notes.
Tu me parles duquel, parce qu'il y en a eu deux, en individuel il y en a eu deux. Toi, je pense que tu parles de celui que je bats, où je suis le premier à passer sous les 21 secondes.
Le premier sous les 21 secondes, ouais, okay. Exactement. Alors, pour moi, c'est celui que j'ai. Je sais qu'il y en avait deux, pour moi c'est peut-être celui qui...
Ouais, mais le premier, il passe un peu inaperçu parce que je le fais aux États-Unis.
Bien sûr.
Je le fais sur les championnats universitaires, ouais. Et qui est une compétition qui n'est pas forcément suivie en France. Et je le fais vraiment par surprise, hein, parce que, bon, pour la petite histoire, le premier, le matin en série, je fais 8e ex aequo, je dois faire un barrage pour passer en finale. Et le soir, je bats le record du monde à la ligne complètement extérieure. On parle du deuxième, c'est celui qui a été un peu plus emblématique pour moi. C'est que tout au long de l'année, je travaille pour casser cette fameuse barrière des 21 secondes. J'en suis pas loin, enfin on n'en est pas loin au niveau mondial. Et puis en fait, je sais que je l'ai en moi. En fait, j'ai très peu de certitudes dans la vie, mais il y en a certaines qui s'ancrent et qui s'imposent à moi. Et en fait, en début de saison... Peut-être ça a commencé sans doute à maturer en moi la saison qui précède, mais où je commence à avoir cette petite voix qui me dit tu vas réussir à le faire, tu vas chercher ces 21. C'est plus une barrière inaccessible et ça va être la tienne. Et en fait, toute l'année, je me mets en mission. Et donc, on arrive au championnat de France au mois d'avril, c'est à Montpellier. J'avoue que je ne sais plus ma ligne d'eau. Je ne sais plus dans quelle ligne d'eau je suis. Mais je sais que je n'ai pas le choix, en fait, parce que je tombe contre Amaury Levaux et Alain Bernard. On est en 2009. Donc, Alain, l'année d'avant, il est champion olympique du 100 mètres. Il est également troisième aux 50 nages libres aux Jeux olympiques. Et Amaury, il est deuxième aux Jeux olympiques aux 50 nages libres. Donc, en fait, je me frappe les deux meilleurs mondiaux. Et surtout, bah, Je vais chercher.
C'est l'année après aussi votre relais, ouais.
Voilà, c'est l'année après notre relais. C'est aussi l'occasion pour aller chercher une sélection pour les championnats du monde, cette compétition. Donc au-delà de la volonté de battre ce record du monde, je vais surtout, l'objectif principal, c'est de se sélectionner pour les championnats du monde. Et en fait, la DTN en place à l'époque avait décidé, aucun jugement là-dessus, que ceux qui avaient fait podium aux Jeux Olympiques étaient préqualifiés. Donc ça veut dire que aux 50 nazis, vous étiez deux à avoir fait le podium. Comment on fait ? Ils avaient dit, on garde celui qui a fait deuxième et ça laisse plus qu'une place pour se sélectionner. Donc en fait, j'ai les deux meilleurs nageurs mondiaux avec moi, contre moi, aux 50 nazis et il faut que je les batte pour être sûr d'être qualifié au championnat du monde. Et en fait, la course se déroule et je sais que je suis devant parce que je me vois devant. Je ne sais pas vraiment où j'en suis par rapport au chrono parce que je fais une course très, très précipitée. Beaucoup sur la force, peu sur l'efficacité. Et je me dis, pas terrible, terrible quand même, en termes de sensation, de fluidité, de glisse et de mise en application de ce que je savais faire à ce moment-là. Je me dis. Et pour autant, au moment où je touche le mur, le tableau, il est complètement de l'autre côté. Donc, je touche et en fait, le temps que je me retourne, en fait, j'entends le silence dans la piscine. Et ce silence, il est effrayant, mais en même temps, il est révélateur. Et donc, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, soit j'ai été disqualifié, et là, c'est une catastrophe, soit le chrono, il n'est pas dégueu. Et en fait, je vois le chrono affiché en gros, 20-94. Et là, putain, mais c'est comme c'est bon, quoi. Et il y a une énergie qui vient, là. La satisfaction d'avoir atteint cet objectif, d'être le premier homme au monde de l'histoire de la natation à passer sous les 21 secondes. C'est sans doute un des trucs dont je suis le plus fier dans ma carrière et qui m'a donné le plus de joie, quoi.
Ouais, j'imagine. Comment on fait pour se remotiver après ça ?
On continue parce que en fait, tu es tout le temps dans l'adversité. Donc une fois que tu as atteint ça, tu sais que tu peux le perdre, ce record du monde. Tu sais que avec un record du monde, tu viens à la position de favori. Donc il faut assumer cette position de favori, mais surtout que tu as d'autres aspirations. Là, par exemple, je me sélectionne au championnat du monde et j'ai le record du monde. Je sais que 3 mois plus tard, au championnat du monde, j'ai envie d'être champion du monde. Bon, je suis vice-champion du monde, ça fait chier, mais je suis vice-champion du monde quand même. Et en plus, je fais une médaille aux 100 mètres, soit ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, je suis très content. Enfin, voilà, tu te remotives comme ça, en fait, en te fixant des objectifs.
Toujours nouveau,
ouais. Ouais, toujours nouveau. C'est ça qui est la beauté du sport, c'est que tu finis un événement, tu sais déjà quel est le prochain événement qui va arriver, qu'il soit majeur ou pas. Tu sais déjà quel objectif tu vas vouloir te fixer. En fonction de ton envie, en fonction de ta carrière, du moment dans ta carrière. Par exemple, on parle de toute autre chose, mais qui est beaucoup moins gai pour moi. En 2012, je loupe la sélection pour les Jeux Olympiques. À ce moment-là, je me pose la question, est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas ? J'ai les épaules qui sont en vrac. Niveau performance, c'est pas ça. Et en plus, je craque, entre guillemets, au moment où je suis supposé exploser. Puisque 2008, je fais relais et médaille d'argent. 2009, j'ai record du monde et plusieurs médailles au championnat du monde. 2010, il y a tout ce changement de combi, pas combi, mais je deviens champion de l'Europe, double champion de l'Europe. Et je me dis, 2012, c'est pour moi. Et donc, il se passe tout ça en amont. Donc forcément, 2012, je me dis, putain, c'est mes jeux, quoi. C'est là où, au-delà de la médaille en relais, je vais chercher ma médaille, voire un titre olympique individuel. J'en ai les capacités, je suis en lice pour ça. Et là, je me viande aux sélections olympiques. Je fais 4e ou 5e du 50. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Et donc là, il a beaucoup de questions. Et en fait, l'idée d'arrêter, elle est vite mise de côté. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Pour moi, il n'y a pas d'échec à tomber. Le véritable échec, c'est de rester là où on est tombé. Et c'est pas de moi, c'est d'un célèbre philosophe antique. Cette phrase m'a marqué parce que c'est exactement ce que j'aime voir. Dans l'échec, il y a de la progression. Le véritable échec, il est de rester là où tu t'es tombé. Et c'est là que tu restes dans l'échec. Et là, c'est pas bon. Mais si tu te relèves et que tu continues d'avancer, c'est ce que j'avais voulu faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Les prochains Olympiques, c'est dans 4 ans. 4 ans à mon âge, c'est une éternité. Mais est-ce que tu as la volonté ? Aspirer au même rêve que tu avais par rapport aux Jeux de 2012, c'est-à-dire faire une médaille, sois conscient, sois réaliste, ça ne peut pas arriver. Ton corps physiquement ne suit plus. J'avais une épaule qui m'avait lâché, j'ai un tendon qui s'était arraché, il a fallu que je me fasse opérer. Je m'étais dit, fixe-toi l'objectif de 8 ans après ta dernière participation aux Jeux Olympiques en 2008. En 2016, tu y participes avec une opération dans les dents et plus de 15 ans en équipe de France. Juste participer, fixe-toi cet objectif. De toute façon, les critères de sélection sont suffisamment élevés. La compétition en France, elle est terrible à ce moment-là. Enfin, je parle de Flo, quoi. Flo, Fabien, Amaury. Je me suis fixé ça. Et en fait, c'est des objectifs et des rêves que tu te fixes, mais en fonction de du moment de ta carrière, de tes capacités et de ton envie, quoi.
Ouais, bien sûr. Il y avait une dernière question sur le sport, et puis après, j'avais deux, trois petites questions de clôture un peu sur d'autres sujets. Mais tu vois, avec Flo, tu vois, c'est une magnifique amitié. Il y a une compétition qui est terrible au sein de l'équipe de France, tu vois. Alors, pour le spectateur, c'est génial. Parce qu'on sait qu'on va se retrouver avec un super relais, on sait qu'on va se retrouver avec du top niveau, tu vois, et on sait que ça va jouer les médailles. Mais comment, et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez réussi à le transformer positivement, tu vois, cette compétition, qui, on le voit dans d'autres équipes, ça les autodétruit, en fait, tout simplement. Mais comment, toi, tu le vis de l'intérieur, tu vois, ce haut niveau permanent où, en fait, d'année en année, rien n'est jamais sûr. Tu vois, comme tu dis, t'es Amaury, après t'as Flo, Alain, enfin bref, ouais, tous. Et puis, sur les autres nages, c'est aussi costaud, quoi.
Moi, personnellement, je le vis un peu comme une routine parce que, si tu veux, cette confrontation, cette adversité, j'y ai été confronté dès que je suis arrivé aux États-Unis. À l'âge de 20 ans, j'arrive dans un groupe universitaire où il y a 50 mecs dans l'équipe de natation. À savoir que pour les championnats NCAA, on en prend entre 15 et 20 max. Donc en fait, tu es dans cette adversité tout au long de ta carrière universitaire. Je l'ai été tout au long de ma carrière universitaire. Et même quand je suis sorti de cette équipe universitaire, à ce moment-là, on a créé un groupe pro, entre guillemets, où les anciens de l'université ont continué de nager. D'autres nageurs étrangers, dont César Cielo, se sont rajoutés. Donc cette adversité, elle a continué. Et donc finalement, c'est un bain dans lequel je suis depuis des années et qui, c'est devenu une normalité. C'est devenu une normalité. Donc je ne le subis à aucun moment. Je le vis normalement, je le vis avec tout ce que tu as de positif à prendre, d'être dans cette confrontation permanente. Et la chance que j'ai, c'est que le groupe de Marseille a parfaitement su mettre en place cet esprit-là de cohésion et de solidarité avant la mise en adversité. Et que le groupe de Marseille compose majoritairement l'équipe de France, donc on impose entre guillemets cet état d'esprit, ce qui fait que tout le monde se met au pli. Il y a une ambiance saine qui se développe au sein de l'équipe de France également. Enfin, je veux dire, championnat d'Europe 2010, on ressort meilleure nation européenne de la compétition. On explose le tableau au niveau des médailles. Je crois que pas un seul nageur est parti sans médaille ou sans avoir fait un meilleur temps personnel. Un taux de réussite incroyable n'est jamais atteint. Ça aurait pu exploser. Orgueil, fierté, ben moi ça brille pour moi mais ça ne doit pas briller pour les autres et pourquoi ils ont plus d'attention pour lui et pas pour moi, etc. Ben non, à ce moment-là, on est beaucoup plus animé par le copain qui réussit que sa propre réussite. Et ça pour moi, c'est la plus belle des victoires, surtout quand tu es dans une équipe nationale.
Ah mais c'est beau ce que vous avez réussi à faire et je suis un petit peu attristé de constater que ce modèle-là, il n'a pas été dupliqué, répliqué dans d'autres sports et qu'on n'a pas réussi à reproduire, tu vois, cette espèce de volcan d'excellence et d'amitié et de performance que vous avez réussi à créer, et performance saine qui a fait grandir,
ouais,
tout le monde.
Ouais, mais après à côté de ça, il y a des facteurs qui rentrent en compte.
Il n'y a pas de recette magique, je pense.
Il n'y a pas de recette magique. Nous, les éléments, c'était que, bon, génération dorée, faut le croire, hein. Alain, Fabien, Amaury, Yannick, Florent sont sensiblement tous de la même génération et exceptionnels en termes de qualité aquatique et de talent athlétique. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant X années, on s'est enfermé un petit peu dans notre cocon. On s'est isolé du reste du monde. Je veux dire, on était presque, on en devenait autistes, nous les nageurs du cercle des nageurs de Marseille. On était un groupe d'une quinzaine d'individus à devenir complètement asocial. C'est-à-dire que les rares fois où on sortait pour aller s'amuser, pour aller décompresser, on n'arrivait même pas à laisser quelqu'un de l'extérieur rentrer dans notre groupe. On était une unité. On était là, on ne voyait que nous, on ne vivait que pour nous et par nous. Donc c'est quand même, il y a aussi, c'est quand même extrême. Et à reproduire, c'est peut-être pas les bons schémas, c'est peut-être pas adapté aussi aux nouvelles générations qui sont beaucoup plus ouvertes de par les réseaux sociaux, qui sont beaucoup plus ouverts sur l'aspect social, qui ont beaucoup plus besoin de peut-être s'apparenter à quelqu'un de normal à travers leur vie anormale d'athlète. Enfin, tout ça. Tout ça que fait que il y a des adaptations à chaque fois pour recréer les schémas.
Ok. Bon, vous avez dû en faire des sacrées fêtes aussi. Allez, s'il y avait une anecdote un peu marrante, un moment, une bonne connerie que vous avez faite, qui selon toi représente bien un peu l'esprit d'équipe dans lequel vous étiez, parce que s'entraîner ensemble, il faut aussi un petit peu s'amuser ensemble. Il y a l'avouable et le non-avouable, mais parmi l'avouable, est-ce qu'il y a une petite anecdote
Pas pour nous donner des excuses, mais quand on est athlète de haut niveau, on côtoie l'extrême. On va dans l'extrême au niveau de la difficulté, on va dans l'extrême au niveau de la douleur, on va dans l'extrême au niveau de la répétition, de la discipline, etc. Mais aussi, on va dans l'extrême de la connerie. Et donc forcément, ben, à un moment, quand tu dégoupilles jusqu'au bout. Et nous, généralement, les moments où on décompressait, c'était après un événement majeur, donc que ce soit les championnats du monde. Mais les fois où on a le plus dégoupillé, parce que c'était les fois où on se retrouvait vraiment avec nos amis proches, nos coéquipiers, c'est après les championnats de France, qui la plupart du temps sont les sélections également. Et donc tu te retrouves avec le groupe de Marseille. On est en 2011, au championnat de France à Strasbourg, fin de compète. Dernier soir, un dimanche soir comme d'hab, donc forcément un dimanche soir tu vas rien trouver hein, à Strasbourg pour sortir en plein mois de mars, mais nous on trouve un bar, c'est, en fait c'est une cave, et heureusement que c'était une cave, que ça donnait pas pignon sur rue parce que bah, ça a été bordel, les nageurs de Marseille sont arrivés, les autres nageurs des autres clubs nous y ont rejoints, je crois qu'on a dû lui laisser plus que l'addition totale en pourboire pour remplacer tous les verres qu'on avait cassés. Je pense qu'on est tous ressortis quasiment à poil de cette soirée-là parce que bah, y a un abruti, Maxime Bussière, je le cite, qui a décidé que bah, un polo, c'était beaucoup plus joli déchiré, une chemise, c'était beaucoup plus joli sans bouton, et qu'un t-shirt pouvait devenir chemise instantanément. Donc on est tous ressortis au mois de mars à Strasbourg, il fait moins 15 la nuit. Ouais, complètement déchiré, en pleine rue, sans t-shirt, avec nous pantalons quand même. Mais voilà, en ayant passé une soirée mémorable, on s'en rappelle encore, on se voit tous les uns les autres, on se fréquente pas régulièrement, mais assez souvent, et on se remémore nos conneries de soirée, quoi. Et celle-là, elle en fait partie. Parce que à cette époque-là, je me rappelle même d'un monsieur qui nous avait accompagnés, qui faisait partie du club, qui à la suite va devenir DTN en plus de la fédération, mais qui à ce moment-là nous accompagne comme dirigeant du club, et qui s'est retrouvé, enfin à poil torse nu, parce qu'il n'avait plus de t-shirt, à sortir dans la rue et à mettre le blouson en cuir d'une des filles qui s'entraînait avec nous, mais qui fait à peu près 1m12. Lui, il fait 1m80. Et donc, il met son blouson en cuir rose. Et je me le vois marcher avec lui devant, avec son blouson en cuir rose pour rentrer à l'hôtel. Enfin, voilà. Mais bordel, mais gentil, quoi. Enfin...
Ça me choque pas. Tu sais, j'ai entendu. J'ai eu les handballeurs aussi, quand même.
Alors là, c'est un autre niveau.
Les handballeurs, c'est un gros
non.
niveau aussi.
Nous, on est à la crèche par rapport aux handballeurs. Non. Non, joueur de handball, joueur de volley. Attention les plateaux, attention tout ça.
Ah oui, il y a du gros niveau. Bah, tu connais un peu. Je pense que franchement, vous êtes les trois équipes avec le podium quand même sur la partie faite. Bon bah écoute, très cool. Merci pour cette anecdote. Ça fait toujours sourire les auditeurs et on est tous bienveillants parce qu'on fait tous la fête et on est tous des gros sportifs. Le temps passe et j'avais promis de te libérer pas trop tard, mais il y avait un dernier sujet, tu vois, que j'avais envie de te demander un petit peu parce que je me suis mis à ta place à ce moment-là et je me suis dit si ça avait été ça, ça m'aurait saoulé, quoi. Je te l'ai dit, tu vois, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est que bah tu vois, en préparant l'interview, je tape du coup ton nom, Frédéric Bousquet, dans Google, et tu vois, un peu à ma surprise, tu vois, normalement je tombe sur l'équipe, Eurosport, RMC, et pour toi bah c'était pas les mêmes sites, tu vois, c'était plus Gala, Paris Match, tu vois, qui font tous effectivement mention à ton histoire avec l'or. Et je me suis dit, putain, mais ça m'aurait saoulé à ta place, tu vois, qu'il y ait autant de contenu dans de la presse people ou quoi. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu, cette espèce de déferlante, en plus, tu vois, de la pression médiatique que tu as au niveau sportif, qui est quand même assez élevée, tu vois, d'avoir, bah, en fait, des gens qui se mêlent de ta vie privée, qui commentent. Certains le vivent très bien, d'autres le vivent moins bien. Moi, je fais partie des gens qui vivent un peu cachés à ce niveau-là, tu vois. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu ?
Je l'ai vécu de manière différente, en fait. L'approche de cette presse, si on peut appeler ça une presse, parce que ça, c'est un peu insulter le métier de journaliste que de parler de ces magazines comme des magazines journalistiques, mais bon, on va le faire comme ça, cette presse. Avant d'être avec l'or, elle ne m'intéressait pas. Par contre, je savais qu'elle existait et je savais consciemment, en me mettant avec l'or, que c'était quelque chose qui venait avec. Ça faisait partie du package. Elle était dans ces magazines-là avant qu'on se mette ensemble. Je savais, ou du moins je me doutais, je savais qu'il y avait une chance pour que ça continue quand on était ensemble. Donc ce choix, il était conscient et j'allais pas me gâcher l'histoire que j'ai eue avec cette personne par rapport à des individus qui s'empressent de relater les moindres frais de CPGZ ou qui s'empressent de relater leurs fantasmes sur du papier. Donc ça, si tu veux, au niveau de la presse, comme on dit la presse people, un désintérêt total à ce niveau-là. Donc, du coup, je regarde pas, je m'y intéresse pas. Quand on me le rapporte, je le balaye vraiment. Et j'ai la chance à ce moment-là d'avoir une certaine maturité et un recul qui me permet de ne pas être atteint, de ne pas être déstabilisé par ce qui peut être dit, vu, montré ou voilà. C'est chiant à des moments. C'est chiant, c'est très chiant à un moment, à la naissance de notre fille. Quand on est obligé de rentrer en clinique à pas d'heure le matin pour éviter ces photographes et que sur la durée du séjour, on ne peut pas ouvrir les volets parce que ces abrutis, ils ont loué les chambres ou les appartements qu'il y a en face pour pouvoir avoir la première image. Ça, ça me fait chier. Quand on est suivi le jour où on rentre à la maison et qu'on ramène notre enfant pour la première fois à la maison et qu'on doit se dépêcher de rentrer pour pas être vu, pour pas qu'il y ait une photo, etc. Ça, c'est débile. Voilà, ça, c'est débile. Et pour moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas quelque chose que je peux valider. Et c'est même quelque chose que je trouve vraiment détestable. Là, il y a beaucoup de frustrations qui se mettent en place. Mais je passerai, j'irai pas plus loin sur cet aspect-là. Là où ça m'a plus gêné, et je pense que c'est plutôt mon orgueil à ce moment-là, mon orgueil d'athlète, c'est quand la presse sportive me prénomine comme étant le copain d'eux ou le compagnon d'eux. Plus Fred Bousquet, le nageur, mais Fred Bousquet, le copain d'eux. Ça, après, comme on en parlait tout à l'heure, je te dis, c'est peut-être par souci de ne pas avoir des répétitions à faire dans leurs articles, mais je pense qu'ils auraient pu trouver un autre acronyme. Maintenant, ça me blesse un peu. Ça, je me dis, en fait... Je m'en fous un peu de mon image à l'époque et toujours aujourd'hui. De toute façon, je n'ai pas fait ce sport et je ne l'ai pas fait de la manière dont je l'ai fait pour avoir telle ou telle image ou telle reconnaissance. Je m'en cogne complet. Mais ça me fait chier quand même. Je me suis construit, j'ai mon palmarès, j'ai atteint un statut et j'aime conserver ce statut. Quand on me l'enlève pour me rabaisser entre guillemets à juste un pantin, ça me fait chier. Quelque part, la période elle est relativement courte. Notre histoire s'arrête relativement rapidement. Donc derrière, mon identité revient aussi. Puis bon, après, comme tout orgueil, bah, ça se canalise, quoi.
Ouais, ok. Écoute, merci beaucoup pour ta sagesse et puis la précision de tes mots. En tout cas, moi, ça me fait grandir, tu vois. Je sais pas du tout comment je réagirais, tu vois, par rapport à ça, notamment quand ça touche tes enfants, ton intimité, des moments formidables, tu vois. Enfin, je vais pas te l'apprendre. La naissance d'un enfant, c'est un moment que t'as envie de profiter, tu vois, et si t'es sur le qui-vive et que tu te sens agressé, menacé, moi, je te demande pas du tout de réagir à ça, mais moi, je sais que ça m'aurait rendu vraiment très, très en colère et je peux comprendre que tes mots sont un peu durcis, quoi. Donc, merci en tout cas de faire grandir. Et puis aussi, je pense, tu vois, qu'il faut aussi éduquer les gens, le public, aux pratiques de ce type de médias qui mais quand t'en parles, en fait, tu vois le revers de la médaille, tu vois, et moi, tu vois, quand t'en parles, je me dis mais plus jamais j'achèterai un truc comme ça. Et si jamais je vois ma petite amie qui achète un magazine comme ça, je dirais mais tu sais ce qu'ils font, ces gens-là, en fait. Si t'avais été à la place, je sais pas, de Fred Delors, mais aussi de toutes ces stars et tout qu'on voit vraiment qui sont harcelées, tu vois. Je pense que le pire, c'était Britney Spears, tu vois. Je sais pas si tu te souviens de cette image avec l'hélico et tu vois les 50 bagnoles qui la suivent dans la rue. Je me dis, mais faut pas qu'on cautionne ça, quoi. Enfin, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux.
Non, mais tu sais qu'en plus, ce type de média, il a été énormément amoindri depuis l'explosion des réseaux sociaux. Les gens assument de plus en plus leur vie privée, on affiche de plus en plus nos vies privées, des moments intimes, on les met, on les maîtrise, et on maîtrise également la communication autour de ça, parce que au-delà de l'image qui est diffusée dans ces médias-là, c'est surtout la manipulation de l'information et le déroutage de l'information qui est établi par ces pseudo-journalistes qui font de la désinformation, qui donnent des mauvaises indications, qui cataloguent un peu certains individus parce qu'ils ont envie de les mettre dans des tiroirs. Ben non, c'est pas parce que t'es un rugbyman que t'es un bourrin, c'est pas parce que t'es un patineur artistique que t'es un homosexuel. Voilà, faut arrêter la généralisation, il y en a ras-le-bol. Donc aujourd'hui, on est plus en maîtrise de notre communication autour de nos vies privées et de ce que l'on a envie de communiquer. Et je pense que ça affaiblit énormément ce type de médias, ce type de ragots.
Ouais, bien sûr. Ouais, effectivement, c'est beaucoup plus maîtrisé. Et tu sais ce que tu montes, tu donnes l'information. Et au moins, voilà, elle est là. Mais tu sais, toi qui l'as donnée, donc ça te convient mieux, quoi.
Et tu l'assumes. Ou c'est à toi de l'assumer. Bonne ou mauvaise.
non, bien sûr. Et tu laisses pas des gens interpréter ou faire des suspicions par rapport à ça. Ça aurait pu te fâcher avec le monde des médias.
Oh, mais j'ai souvent été en conflit avec les médias, moi. Les médias sportifs. sportif, hein, je parle pas du reste. Médias sportifs, ça m'a souvent fâché avec eux. Le mouvement journalistique en France n'est pas un mouvement qui aide à la performance. Ils sont pas là pour ça. Je suis complètement d'accord avec eux là-dessus. Mais il y a une manière d'apporter l'information ou de mener un interview, surtout en amont d'une compétition, pour avoir connu une autre titre de médias américain, où tu te dis, bah, finalement, ça pourrait être amené de manière différente. La pression pour eux est ne pas être posée là. La nécessité du résultat. Les choses comme ça. L'exemple typique, j'en parlais dimanche, avant le Grand Prix moto. T'as Quartararo qui est dans les stands et qui sort de son stand pour rejoindre sa moto sur la grille de départ, sur la ligne de départ. Il a quelques minutes de prendre le départ de son premier Grand Prix. Saison dernière, il est vice-champion du monde. Saison d'avant, il est champion du monde. D'accord ? Le mec de Canal+, et c'est pas pour le dénigrer ou quoi, mais première question qu'il lui pose, c'est est-ce que vous allez regagner ce titre ? Mec, s'il avait pas envie de gagner ce titre, il serait pas là, ok ? Déjà, première chose. Et tu lui poses cette question-là avant la première course du championnat. Enfin, ça, c'est quelque chose qui se pose en interview et en conférence de presse de pré-saison, quand tu es en train de faire les essais de ta moto, et que quels sont les objectifs de votre saison ? Améliorer la bécane, revenir sur le devant de la scène, blablabla, blablabla. Là, il est à quelques minutes du départ, mais va pas lui mettre ça en tête. Enfin, je sais pas. C'est des petits trucs comme ça qui me choquent. Reconquérir le titre. Mais pourquoi ? Laisse-le s'éclater avant tout, quoi. Laisse-le faire sa vie, sa course. Le mec, il a réussi à être champion du monde à 19 ans ou 20 ans. Pas grâce à vous, hein. C'est plutôt grâce à vous qu'il n'a pas été de nouveau champion du monde l'année suivante, parce que toute la pression est mise sur ses épaules à ce niveau-là. Et l'équipe en premier, pour ne pas les citer, savait très bien faire ça avec nous. C'est-à-dire qu'avant une compétition, ils arrivaient à nous rentrer dans la tête. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, bien heureusement, on a réussi à avoir des préparateurs mentaux qui sont venus, qui se sont installés petit à petit dans la mise en place de notre préparation et de l'établissement de nos performances. Parce que sans eux, on aurait continué à se faire démonter. Faut pas croire que parce qu'on est athlète, on est des robots et qu'on n'a pas d'émotions, on n'a pas d'incertitude, on n'a pas de crainte, on n'a pas de doute. Au contraire, on les a au quotidien, on vit avec. Et on n'a pas vraiment besoin de se les faire rappeler par un pseudo-journaliste quelques heures avant le grand événement. Donc ouais, en conflit avec la presse journalistique sportive, je l'ai été, mais c'est pas bien grave. Après, t'apprends à tenir un discours, mais c'est un discours faussé. Tu leur dis plus ou moins ce qu'ils ont envie d'entendre, mais du coup, tu donnes pas ton vrai toi, quoi. C'est pour ça que l'apparition des médias et des médias sociaux, c'est quand même pas plus mal, des réseaux. Un mec comme Flo, je le vois aujourd'hui, il a quasiment plus besoin de donner d'interviews auprès de journalistes spécialisés parce que tous ceux qui le suivent savent ce qu'il en est dans sa prépa, ce qu'il est en train de faire, les temps qu'il fait, son retour sur les compétitions qu'il a fait. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est un point en moins.
Bon écoute, je suis flatté du coup d'être là et nous avoir eu tous les deux, sortir un peu du cadre effectivement journalistique et qui était aussi un peu moi qui m'a lassé en tant que fan, tu vois, d'avoir à la fois toujours ces mêmes questions qui sont des questions parfois gênantes jusqu'à malaisantes et d'avoir toujours les mêmes réponses pour se protéger, tu vois, et je trouve qu'en tant que fan tu y perds tout, quoi. Enfin, donc c'est tu le formules très bien en tout cas.
L'exemple le plus flagrant, c'est le foot. Regarde une interview d'Mbappé, une conférence de presse d'Mbappé. Il y a un discours de sourd qui s'installe. Parce que l'autre, il est coaché et drivé à la lettre près par des gens qui le protègent. Et c'est tant mieux. Et il est obligé de faire ça. Et en face de lui, t'as les mecs qui vont sans cesse poser la même question de manière différente pour obtenir la réponse qu'ils veulent. Tant qu'ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent, tant qu'ils n'ont pas la phrase d'accroche, ils vont te la reposer. Ça, c'est ce qui gâche toute conférence de presse ou toute interview, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, d'essayer de retravailler, d'aller chercher la petite bête, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment on peut terminer sur un sujet plus sympa ? J'avais envie de... Allez, deux, trois petites questions pour la fin. Qu'est-ce que tu faisais pour te changer les idées quand tu nageais pas ? C'était quoi tes passions à côté de la natation aujourd'hui ? C'est quoi tes passions ? C'est quoi les trucs qui te...
Passions à côté de la natation quand je nageais pas ? Putain, ça me ramène quelques années en arrière.
Non, ça peut être des passions aujourd'hui, tu vois. Je sais qu'avec Flo, tu vois, on a parlé... forcément, on a parlé bécane, on a parlé un peu astronomie, on a parlé guitare.
Ouais, mais bon, alors, Flo est quelqu'un de très passionné et quelqu'un de très curieux. Ouais. Moi, à la base, il faut savoir que je suis pas très curieux. Mais pour autant, enfin, quand je nageais... j'ai eu ma période où quand je nageais pas ou que j'avais un peu de temps, j'aimais aller jouer au beach volley. Je passais mon temps dehors. J'adorais jouer au beach volley à Marseille, au Catalan, etc. M'amuser là-dessus. Chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui parce que par force des choses, il y a de moins en moins de place. Mais dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais me faire tatouer. Ok.
Ah, mais oui, je savais qu'on avait un sujet commun.
Voilà. Ça, c'est. Mais bon, ça fait partie du calendrier sportif. Tu peux pas le faire à n'importe quel moment parce que, bah, tu le sais, hein, tu peux pas transpirer ou aller dans l'eau pendant une dizaine de jours. Donc, t'es obligé de le faire à certains moments où t'es en repos. Bécane, ouais. Alors, bécane, mais à moindre mesure sur la fin de la carrière, parce que même si notre coach avait été assez cool pour nous laisser passer le permis alors qu'on était encore actif, il nous avait quand même demandé d'être assez prudent et de faire des efforts par rapport à ça. Donc on roulait, mais voilà, aujourd'hui ouais, beaucoup plus. Et voilà, et puis après, non, vivre, le sport de la natation m'a donné le goût du voyage. Le goût et en même temps la frustration, parce que la frustration d'aller dans des pays, dans des destinations incroyables, mais de ne voir que l'hôtel et la piscine. Donc du coup, vouloir voyager aujourd'hui, dès que j'en ai l'occasion, je voyage, je pars à droite, à gauche et je découvre. Dans la mesure du possible, j'essaie d'y aller avec ma fille. L'année dernière, on s'est fait quasiment 3 semaines en Polynésie française. J'avais eu la chance de découvrir cet endroit du monde qui est incroyable avec des gens inouïs. Et je voulais absolument faire découvrir à ma fille qu'elle puisse avoir ça dans ses valises, qu'elle puisse découvrir une autre culture, une autre approche de la relation humaine. Un autre paysage également. Enfin voilà, essayer de faire des choses comme ça, passer du temps avec elle aussi. Je l'ai pas tout le temps, je l'ai très peu. Et donc du coup, dès que je peux la voir pendant les vacances scolaires, c'est ma fille, ma fille, ma fille.
Tu la gâtes, c'est normal. Hein. Moi aussi, je suis un papa gâteau fois 1000, deux petits garçons 9 et 3. Donc tu vois aussi, il faut. Ah, mais je les bouge. Peut-être question tatouage, moi j'en ai 3, tu en as combien en tout là? Parce que c'est vrai que j'ai regardé des photos hier.
Je sais pas te le dire, parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça s'est rempli. Tu vois, les bras par exemple, je saurais pas te dire combien il y en a sur les bras. Parce que j'ai commencé
des flashs,
par.
T'as fait des petits.
Ouais, en fait, j'ai fait des manchettes, et donc du coup, il y a plusieurs tatouages, mais les deux bras sont tatoués, le pec, les deux cuisses sont tatouées, un mollet tatoué. Et pour tout te dire, demain, le dos sera tatoué.
C'est vrai?
Ouais.
Ok, d'accord. Tu fais quoi?
Demain, je fais une fleur dans le dos.
Ok.
Ouais.
Okay,
premier tatouage dans le dos, là, ça me fait bizarre. Tous mes tatouages sont de vos. J'ai toujours voulu voir mes tatouages.
Et
toujours.
J'avais pas remarqué.
Le problème étant, c'est qu'il n'y a plus trop de place et il y en a un qui me tient à cœur. Et donc, la place idéale, voilà, colonne vertébrale, haut du dos.
Colonne, fais gaffe, ça fait mal. Hein. Ouais, mais.
Ah ouais, non, mais c'est bon. Ouais, je sais, après la douleur à hier, quoi qu'il arrive.
Moi, c'était. Ouais, les côtes, ça pique.
Les côtes, ça pique. L'aine. J'ai fait des ailes sur l'aine. La picote aussi. La main, le dessus de la main, là.
Ouais.
J'ai fait une branche ici. C'est pas. Ouais, c'est pas très agréable.
Et bon, du coup, tu vas pas t'arrêter, quoi.
Je pense pas. Non.
c'est fou comment c'est addictif ce truc.
C'est addictif, c'est une forme d'expression, c'est révélateur des avancées de ma vie, ça m'accompagne, ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, encore plus aujourd'hui que je suis plus en maillot de bain, à les montrer, à les exposer, je les fais vraiment pour moi et par rapport à moi. Et ça a pas de prix quoi.
Bon, écoute, j'ai hâte de voir. Tu m'enverras une petite photo du prochain. Je suis curieux, du coup. Écoute, merci infiniment, Fred. J'ai passé un moment merveilleux, tu vois. Vraiment, je me suis régalé. C'était passionnant. Merci pour ta transparence et puis ces petits sourires, ces petits moments où on a pu rigoler. Comme je te le disais, il y a une toute dernière question. C'est pour clôturer un peu, faire une passe décisive, passer le flambeau, passer le micro. C'est de savoir quel athlète avec qui tu t'es bien entendu et que tu me recommandes justement sur un format détendu où on peut parler de tout, de rien, autant de tatouages que casser un peu de sucre sur le dos de certains journalistes, mais aussi parler des bons moments sportifs.
Pour sortir un peu du cas de natation, j'aurais tendance à fortement le conseiller Ladji Doucouré, qui est un garçon qui est adorable, qui est hyper joyeux, qui est déluré complet. J'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises et avec lequel je m'entends super bien. Champion du monde du 110 mètres haies, pour le resituer quand même au passage. Grand danseur aussi.
Ouais, très grand danseur.
Grand danseur. Ouais. Non, voilà.
Est-ce qu'on t'y verra un jour d'ailleurs?
Jamais de la vie. Non. L'émission n'a pas été encore inventée pour mon style de danse, donc impossible. Non, mais voilà. Ladji,
danse avec un robot.
Franchement, Ladji, par rapport à son parcours, par rapport à sa carrière en tant que sportif, sa carrière en tant qu'après sportif, ce qu'il redonne à ce sport aussi, parce qu'il est entraîneur à l'INSEP également, sa vie à travers les médias aussi, dans la sphère parisienne, très intéressant. Et puis, tu vas te régaler, tu vas te marrer. Et puis après, la natation, c'est ma vie, mon élément, je te conseillerais Beryl Castadello. Prépare-toi, par contre, parce que Beryl... Il faut de la bande son, il faut de la place dans le téléphone pour tout enregistrer. Parce que y a du débit. Elle a pas sa langue dans sa poche. Elle a un parcours de vie qui est marquant. Je vais le mettre comme ça, qui est marquant. Elle a une philosophie de vie du haut de ses 26 ou 27 ans avec un vécu, pour moi un vécu bien trop important par rapport à son âge. Elle a vécu des choses qu'elle n'aurait pas dû vivre et que malheureusement personne ne devrait vivre, mais elle les a vécues. Mais par contre, une athlète avec des qualités exceptionnelles, sportivement parlant, qualités humaines qui sont bien là, les pieds bien ancrés dans le sol, et en plus désormais parisienne, donc pratique pour toi. On va dire ça comme ça.
Écoute, je la connais trop peu, donc c'est avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai entendu son nom plusieurs fois, tu vois, qui a été cité, et je la connais très peu, donc ça serait avec grand plaisir. Et effectivement, si je peux lui ramener un petit peu de soleil, ça lui fera plaisir, j'imagine. Merci infiniment, Fred, pour ce moment, pour cette bulle à travers du temps qu'on a vécu. J'imagine qu'on a accompagné les auditeurs sur leur footing ou dans leur trajet aux voitures. J'espère qu'on les a pas fait trop rire et que personne n'est rentré dans le platane. D'accord, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et puis, comme on dit chez moi, je te dis à très vite parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
Exactement. Merci beaucoup, Bart. Très sympa.
Salut.
Bye.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.